on intervient ce soir dans le cadre d'un partenariat qui lie nos deux associations, donc l'association des maires de Meurthe-et-Moselle et l'association professionnelle des comptables publics de Meurthe-et-Moselle. Donc nous avons un partenariat et nous intervenons donc sur des sujets divers et variés, mais non toujours traits à la comptabilité, à l'organisation de nos services, à la demande donc de Mme Coulon et de M. Azzo et de leurs équipes. Voilà, donc le sujet qu'on va aborder ce soir, à la demande de vous-même, hein, relayé par l'Association des maires, c'est les pièges justificatifs, alors essentiellement en matière de dépenses. On refera un petit retour en fin de séance sur les pièges justificatifs en matière de recettes et sur la présentation de la recette. On avait déjà fait une intervention en dernier, un peu dans ces mêmes conditions, sur le volet recettes. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous nous interrompez quand vous voulez, vous posez toutes les questions que vous voulez, on n'est pas très très nombreux, donc on devrait pouvoir répondre, et ce sera bien si c'est un peu participatif, plutôt que nous dérouillons notre PowerPoint de A à Z sans s'arrêter. Donc vous nous arrêtez quand vous voulez. Donc moi je vais commencer par vous présenter un petit peu les généralités en matière de pièces justificatives. Ensuite, on abordera des cas un peu particuliers qui sont des paiements au vu de convention, les paiements des subventions, qu'est-ce qu'il faut joindre comme pièce justificative, comment procéder. Mon collègue Michel Tosi ensuite interviendra sur les dépenses de personnel, mais de manière synthétique. Hein. Et puis le plat de résistance, ce sera les marchés publics, la commande publique et les dernières modifications intervenues donc en fin d'année 2011 dans ce domaine. Et pour conclure, donc moi je reprendrai la parole pour aborder le point des recettes. Alors donc les pièges justificatifs en matière de dépenses, le cadre général déjà, donc vous suivez, oui. Monsieur, ça va ? Okay. Donc les articles, les subdivisions des articles 1617 du Code général des collectivités territoriales. L'instruction codificatrice 07-024 qui comporte dans ses annexes une liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités et établissements publics locaux. Voilà, ça c'est votre bible en matière de pièces justificatives de la dépense.
Est-ce que vous connaissez le document ? Est-ce que vous connaissez le document justement qui vient d'être présenté, la liste de 2007 des pièces justificatives ?
Vous ne saviez pas qu'il y avait une liste des pièces justificatives. C'est vrai ?
Voilà, donc vous avez bien fait de venir. Déjà, si vous avez appris que ça ce soir, c'est déjà pas mal. Donc on va vous présenter un petit peu cette liste des pièces justificatives. Alors, trois principes fondamentaux qui régissent cette liste. Un principe de neutralité, un principe d'exhaustivité, et son caractère obligatoire. Alors, neutralité de la liste, elle prend en compte les différentes réglementations afférentes aux dépenses locales. C'est la liste, le strict reflet de la réglementation en vigueur aujourd'hui.
Monsieur Schmitt, je me permets simplement de vous couper.
Oui.
Simplement pour vous dire que la liste est accessible sur le site internet de l'association. Ça veut dire que le document qu'on va vous présenter ne sort pas de nulle part. Hein. Vous pourrez le retrouver très très facilement, soit en m'écrivant sur la feuille d'évaluation de la session, soit justement en le téléchargeant par vous-même en vous rendant sur le site internet de l'association. Donc, navré de vous avoir coupé.
Je vous en prie. Vous coupez quand vous voulez, monsieur. Donc oui, cette liste, je disais qu'elle prend compte donc les différentes réglementations existantes, hein, et afférentes aux dépenses locales, et bon, elle peut paraître complexe à certains moments lorsque la réglementation est complexe.
Et si vous avez des dépenses complexes à faire, adressez-vous tout de suite en liaison avec votre comptable. Hein, si vous avez des opérations un peu particulières, des expropriations pour cause d'utilité publique, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Hein. Je crois que j'en ai fait une en 30 ans de carrière. Donc, n'hésitez pas, après, si vous avez des dépenses un peu complexes, prendre contact avec les comptables.
De toute façon, vous le verrez tout de suite à la lecture de la liste des pièces justificatives. Il y a effectivement certains types de dépenses y compris dans la liste, quand vous commencez à lire la liste, vous dites, voilà, c'est quoi ça? Donc là, ayez le réflexe de vous retourner tout de suite vers votre comptable. Alors cette liste, elle est présentée en différentes rubriques. Elle comporte 7 rubriques en fonction donc des différents types de dépenses que vous pouvez rencontrer. Il y a une rubrique liée aux dépenses de personnel, il y a une rubrique pour les dépenses liées à l'exercice de fonctions électives ou de représentation, il y a une rubrique, on y reviendra tout à l'heure, on la détaillera celle-là de manière un peu plus fouillée sur les marchés publics, il y a une rubrique pour les acquisitions d'immeubles et les opérations complexes, il y en a une autre pour les interventions sociales, une autre pour les interventions économiques et financières. Voilà, donc ce sont les principales rubriques de cette liste des pièces justificatives. À côté de ces rubriques, il y a aussi un certain nombre d'annexes.
J'ai la liste là, j'ai affiché donc le document. Donc ça veut dire que ce que vient de présenter M. Schmitt, vous le retrouverez de manière très détaillée, donc même peut-être de manière trop détaillée dans l'instruction, mais celle-ci étant sur le site, comme je l'ai dit, l'association, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans le détail. Le fait d'avoir la présentation, là, c'est amplement suffisant. Vous aurez les grandes lignes qui vous seront présentées.
Voilà. Donc, je sais que cette liste est présentée par rubrique. Comme toujours, vous allez trouver certaines dépenses qui ne figureront pas dans cette liste. Donc, qu'est-ce que dit le juge ou la jurisprudence des juges des comptes en la matière? Elle dit que lorsque la dépense n'est pas expressément prévue, il faut se référer à la catégorie de dépenses qui s'en approche le plus. Alors, un exemple tout bête, on est souvent interrogé par les élus sur ma secrétaire de mairie part en retraite, on veut lui faire un cadeau, comment on fait? Alors, vous allez aller dans la liste des pièges justificatifs, cadeau à la secrétaire de mairie, c'est pas prévu. Le juge a cherché un petit peu à regarder ce qui pouvait se rapprocher de cette démarche-là, et la jurisprudence dit que le cadeau, c'est finalement une gratification personnelle pour un employé communal, et ça, c'est prévu à la liste des pièges justificatifs, et ça demande une délibération, donc cadeau égale une délibération. Voilà comment ça fonctionne.
Seul petit problème toujours dans le cadeau, c'est quel montant. Alors il faut rester, le juge des comptes vous le dira, raisonnable. Ça veut dire quoi? 400, 500, 600 euros. Voilà, on est dans cet ordre. Je crois que si vous allez jusque 1000 euros, ça ne posera pas de problème.
Monsieur Ferrari.
Mais pas 6000 euros. Ça ne ferait pas raisonnable, même si vous prenez une délibération. Enfin, je ne suis pas sûr que votre délibération, elle passerait. Monsieur Ferrari.
Nous sommes permis de commencer.
Monsieur Ferrari, je vous laisse la parole une seconde, si vous voulez.
D'abord, pour m'excuser vis-à-vis de cette démarche que vous avez faite, et l'initiative également de notre présidente, je vous remercie de la provoquer, aimablement. C'est peu souvent qu'on se rencontre.
Ah, c'est pas souvent, c'est la première fois que je viens. Oui, je pense.
Ça s'avance. Ouais,
c'est pas la première fois que je vous ai rencontré.
Vous êtes généreux, j'ai vu que les victoires sont déjà présentes. Non, simplement que lorsque j'ai appris cette démarche vis-à-vis des élus, j'en ai parlé à notre responsable local, de savoir que ça manquait. Et que cette initiative, je la salue, parce que trop souvent, vous savez, ça me rappelle un peu dans l'entreprise, avec le comptable et le banquier, où on a des versions différentes d'interpréter un certain nombre de mécanismes qui animent nos collectivités. Et l'un et l'autre, nous sommes indispensables, à un moment donné. Et j'ai, après peut-être une carrière assez longue, deviner le rôle de chacun, j'ai dit, mais pourquoi qu'ils ne se rencontrent jamais? Autrement que pour aller discuter individuellement d'un dossier qui ne passe pas, d'une mauvaise explication, alors que dans le fond, les collectivités, si elles sont administrées correctement, c'est parce qu'il y a un mécanisme entre nous qui fonctionne bien, mais qui n'est pas toujours compris, et c'est facile de se pencher sur les huiles en disant qu'ils pourraient faire attention, tout autant qu'à notre trésorier en disant qu'ils sont un peu durs. Et cette initiative, je vous dis tout de suite, je m'en réjouis et je souhaiterais que comme le souhaite notre présidente, qu'elle ne s'arrête pas là, mais qu'elle enclenche, je dirais, un certain nombre de rencontres thématiques, parce que c'est tellement complexe sur les emprunts, sur les subventions, sur les règles à dépasser, sur le vote des taxes. Je crois que c'est très important que votre expérience puisse nourrir un petit peu celle que nous avons sur le terrain et comment elle est interprétée par nos conseils, parce que quelquefois, ce n'est pas compris. Chacun pensant qu'il fait le meilleur travail. Merci.
Merci, M. Ferrari. Oui, je disais en introduction, M. Ferrari, qu'on travaille là dans le cadre d'un contrat de partenariat qui existe depuis maintenant au moins 3 ou 4 ans, c'était avant que j'arrive, entre nos deux associations. Et on fait donc des rencontres thématiques de ce type-là, sur différents thèmes, depuis maintenant 3 ou 4 années. L'an dernier, on est intervenu sur la présentation des recettes et le recouvrement des recettes par les comptables du Trésor. Donc, c'est un sujet aussi intéressant. On est intervenu en fin d'année sur l'endettement en relation avec un banquier choisi par l'association lui-même. Donc on essaye de travailler, effectivement, comme vous le dites, dans ce sens-là, pour réunir un maximum de monde et faire passer les messages, aussi bien dans un sens que dans l'autre, qu'on a à faire passer. Voilà, donc je reviens à la liste des pièges justificatifs. Donc, troisième principe fondamental de cette pièce, c'était là un caractère obligatoire. Alors, obligatoire, elle s'impose autant à l'ordonnateur qu'au comptable. L'ordonnateur doit produire à son comptable toutes les pièces qui sont prévues dans la liste des pièges justificatifs. Il n'y a pas d'arbitraire en la matière. Le comptable, lui, doit exiger toutes les pièces qui sont prévues dans la liste et uniquement ces pièces. C'est-à-dire que, théoriquement, le comptable n'a pas à vous demander des pièces autres que celles qui sont prévues à la liste. Et enfin, le troisième larron dans notre histoire de dépenses, c'est le juge des comptes. La liste est également opposable au juge des comptes, hein, qui ne peut exiger que les contrôles des comptables soient effectués à partir de pièces qui ne seraient pas énumérées sur cette liste. Donc, la liste, caractère obligatoire, elle s'impose aux trois intervenants de la dépense publique locale. Alors cette liste des pièges justificatifs hein, qui sort donc tout droit d'un décret de 2007, à d'autres, enfin le décret de 2007 en l'occurrence, qui comporte cette liste, a d'autres éléments importants également dans son texte, notamment sur la forme des pièges justificatifs. Vous savez, ou si vous ne savez pas, ben, on vous l'apprend ce soir, que la seule signature des bordereaux de mandat par l'ordonnateur vaut à la fois pour la signature des mandats, à la fois pour la certification du service fait, et à la fois sur la certification du caractère exécutoire des pièces justificatives qui sont jointes.
Ça, vous le saviez, je pense. Vous n'avez pas besoin de signer individuellement tous les mandats.
Alors, lorsqu'on dit... une seule signature, c'est bien, ça soulage vos poignets du samedi matin, le soir, quand vous passez à la mairie, parce que vous n'êtes plus obligé de signer tous les mandats, de signer les factures pour certifier le service. Ça n'empêche pas, ça ne vous empêche pas de vous assurer, avant de signer le mandat, bien sûr, que le service a été fait et bien fait. C'est votre problème à vous, votre responsabilité à vous en tant qu'ordonnateur, de vous assurer avant de mettre en paiement la facture que le service a été effectivement fait. Même si vous ne le mentionnez pas sur la facture, lorsque vous signez le bordereau de mandat, vous savez ce que vous signez, je ne fais pas de discussion là-dessus, mais donc vous avez assuré que le service a été fait correctement.
Malheureusement, je ne connais pas ça.
Alors, ce décret de 2007 prévoit aussi que la production copie peut être admise. Alors peut-être que vos comptables vous demandent un certificat administratif lorsque vous mandatez une dépense au vu d'une photocopie. La réglementation prévoit la possibilité de payer une dépense sur une photocopie. Le certificat administratif n'est pas obligatoire. Maintenant, si vous le produisez, bah, ça montre que vous êtes à peu près sûr, enfin que vous êtes sûr que ça n'a pas déjà fait l'objet d'un premier mandat un mois ou deux mois à l'avance. Parce que nous, on n'a pas tellement de filet par rapport à ça. On a bien une application qui sait tout faire, Helios, qui fonctionne très bien maintenant, enfin qui fonctionne mieux, qui prévoit de contrôler éventuellement les doubles paiements, mais on a des problèmes pour borner le double paiement. Si on met double paiement, si on demande à l'application de nous sortir tous les doubles paiements sur 3 mois, par exemple, à chaque fois qu'on va faire la paye, il va nous les sortir en doublon. Il va dire attention, vous avez déjà payé la même dépense le mois dernier. Oui, donc c'est pas très intéressant. Donc on contrôle les doubles paiements, mais à échéance 20 jours, 25 jours. Si vous faites un double paiement, vous mandatez une première fois en avril et puis la deuxième fois en juin avec une photocopie de la facture, le double paiement il partira dans la nature. On le repérera pas, à moins que par hasard on tombe dessus. Notamment les communes qui sont maintenant en CHD, hein, contrôle hiérarchisé de la dépense, on ne contrôle pas tout. Donc faites bien attention lorsque vous utilisez que vous mandatez sur une copie ou sur une photocopie, de ne pas avoir déjà mandaté la dépense un mois ou deux avant.
Vous saviez qu'il y avait un CHD ? Ça vous dit quelque chose, le terme CHD ? Est-ce que nos collègues vous en ont parlé ?
Non ? Ne répondez pas tous à la fois. On est tous dans le même sac.
Alors oui, j'ai dit CHD, j'ai quand même contrôlé hiérarchisé de la dépense.
Je ne sais pas français. Donc, c'est pas c'est français.
Bon, c'est un système qui s'est mis en place progressivement chez nous pour peut-être pas aller plus vite pour viser la dépense, mais pour axer nos moyens qui sont, comme vous le savez, largement en diminution sur l'essentiel et sur les enjeux. Donc on passe peut-être un peu plus de temps sur les dépenses à enjeu, et on passe moins de temps sur les petites dépenses, donc les petites dépenses de fonctionnement. Il y a un tirage au sort et on ne vise que 5, 10, 20% des dépenses. Alors ça s'applique aux collectivités qui font plus de 500 mandats par an. Donc c'est la barre pour l'instant. Voilà. Au-dessus de 500 mandats, on a mis ça en place, en dessous, en général, on n'a pas mis, même si on peut le mettre aussi en dessous, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de collègues qui soient descendus en dessous de ce seuil. Voilà, donc tout ça en partant de la possibilité de mandater des dépenses avec des copies. Bon, la règle générale, ça reste quand même la facture, hein, il ne faut pas des copies systématiquement, on préfère avoir l'original. Et encore, si vous faites un petit certificat avec, nous, ça ne dérange pas du tout. La certification conforme des copies délivrées par l'ordonnateur n'est plus obligatoire. Et puis, on vous dit que la dématérialisation des pièces justificatives est possible. Ça commence tout doucement à faire son chemin. Dans nos petites collectivités, on n'est pas encore à dématérialiser l'ensemble des pièces justificatives de la dépense. On a bien avancé sur la dématérialisation des opérations de paye pour les collectivités d'une certaine envergure qui font 50, 100, 200, 3000 payes par mois. Donc là, on a bien avancé. Les marchés publics, on le verra tout à l'heure, ça commence aussi à se dématérialiser. Un jour ou l'autre, on dématérialisera certainement la totalité des pièces justificatives, les factures, mais bon, on n'est pas encore là. Mais la réglementation le prévoit. Alors, lorsque je vous disais que votre seule signature était nécessaire pour... sur le bordereau de mandat était nécessaire pour... valoir signature de l'ensemble des mandats et justification du service fait et certification de caractère exécutoire. Il faut être vigilant par rapport aux personnes qui signent vos bordereaux de mandat par délégation. Le maire donne souvent délégation à son adjoint finance pour signer les bordereaux de mandat. Dans le libellé même de la délégation, c'est souvent ce que je viens de dire, donne délégation à monsieur machin ou de l'adjoint finance pour signer les bordereaux de mandat, pour signer les mandats. Précisez peut-être dans vos arrêtés qu'il a aussi délégation pour attester du service fait et pour certifier le caractère exécutoire des pièces. Hein, ce sera plus complet puisque sa seule signature du bordereau de mandat vaut pour le tout. Il n'y a pas de contentieux pour l'instant là-dessus, mais ça pourrait peut-être un jour venir. Voilà. Alors, donc, au vu de ces pièces justificatives, quel est le rôle du comptable ? Le comptable, il exerce un certain nombre de, de, de contrôle, hein, en matière de dépenses, sous peine, si on ne faisait pas ces contrôles et qu'il y ait des irrégularités, d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire. Donc il doit s'assurer de la production de la pièce justificative, il doit s'assurer de la régularité en la forme de sa pièce justificative transmise, et il opère un contrôle de cohérence entre les pièces et il les interprète donc dans le cadre de la réglementation en vigueur. Alors, lorsque je vous dis que ces contrôles, il les exécute, donc en fonction du décret de 62 sur la comptabilité publique, il les exécute sous peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c'est une véritable responsabilité que cette responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Si vous soumettez à votre comptable une dépense irrégulière, hein, pour quelque cause que ce soit, hein, absence de crédit par exemple, et que le juge des comptes tombe dessus, le juge des comptes, il n'ira pas chercher l'ordonnateur, il ira chercher le comptable, et c'est le comptable sur ses propres deniers qui se trouve mis en débit et qui reverse dans la caisse de la commune la somme payée irrégulièrement. Alors c'est... Après, derrière, on a un mécanisme régulateur de remise gracieuse par le ministre de l'Ancien des Sommes, qui sont payées des sommes pharaoniques. En voiture tout à l'heure, on parlait d'un bébé de 400 euros. 120 000 euros, on parle de ça. S'il en a une, et encore, c'est pas sûr. Voilà, donc on a un système de remise qui existe. On a un système d'assurance, bien sûr, derrière. On a une assurance qui est obligatoire. Mais le principe existe et vient d'être renforcé par une loi qui vient de sortir en fin d'année, en attendant les décrets d'application, pour rendre cette responsabilité plus effective. Parce que le juge des comptes trouve pas normal que quand lui décide de mettre en débit un comptable, derrière le ministre efface tout d'un coup de crayon. Donc voilà. Donc il y a eu tout un débat là-dessus entre la Cour des comptes et le Parlement. Donc l'association des comptables y a pris sa place aussi, parce qu'on tient absolument à conserver cette responsabilité. Qui nous garantit une certaine indépendance dans le métier qu'on fait. Si on n'a plus de responsabilité derrière, on n'exercera pas notre métier de la même façon. Donc elle est maintenue, elle est aménagée, maintenue, sachez qu'elle existe. Alors une fois qu'on a donc effectué ces contrôles, le comptable décide soit de payer la dépense, si tout va bien, soit de suspendre le paiement de la dépense, soit de la rejeter. On parlera après de la réquisition du comptable. Alors, vous voyez en règle générale, on paye. En général, les dépenses sont représentées correctement. Mais ça peut arriver que, pour une raison ou pour une autre, on soit amené donc soit à suspendre, soit à rejeter la dépense. Alors, la suspension de paiement, on la pratique de moins en moins, pour des raisons d'efficacité aussi, parce que suspendre le paiement, ça veut dire garder le mandat à la trésorerie, ne pas le retourner chez vous, le mettre sous le coude, vous envoyer un message, vous essayez de vous avoir au téléphone en disant « envoyez-moi la pièce qui manque », après la pièce elle revient pas, bon. Donc on peut perdre pas mal de temps comme ça. En plus on a des problèmes techniques avec Helios, je vous en parlais tout à l'heure de cette fameuse application. En matière de suspension c'est assez lourd parce qu'il faut aller noter la suspension dans Helios. La dépense va se coller quelque part, quand on va la remettre en circulation, il faut aller la rechercher, enfin, c'est un peu compliqué. Et donc, on est plus amené maintenant, je dirais, soit à payer, soit à rejeter. Si c'est pas bon, on rejette. Alors le rejet, c'est pas infamant, hein, c'est pas un délai pour le comptable. Hein, le rejet, c'est pas parce qu'il y a une faute, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le régulariser. On rejette, vous le représentez correctement et ça se passe bien. Alors, suspension de paiement, ça nous donne aussi l'occasion de parler du délai de paiement du comptable, enfin, du délai de paiement global déjà de la dépense. Vous savez que c'était dans le questionnaire, donc je pense que tout le monde...
Non, mais il y avait plusieurs. Combien il est,
le délai de paiement global? 30 jours.
Combien?
20 jours pour les prévis et 10 jours pour...
Impeccable. Très bien. 30 jours, oui. 30 jours qui se décomposent réglementairement en 20 jours pour l'ordonnateur et 10 jours pour le comptable. Nous, on est suivi, on est tracé toujours avec Helios, pistée sur le délai du comptable. Et les objectifs qui nous sont assignés par notre direction départementale ici en Meurthe-et-Moselle, c'est pas 10 jours, c'est 7 jours. Donc nous, normalement, on paye en 7 jours. 7 jours, vous savez, le samedi et le dimanche, ils comptent dans les 7 jours. Hein. Donc déjà, si vous recevez le bord de comptable vendredi, on se prend déjà 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, le temps qu'on s'y mette dessus le lundi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne pratique plus trop la suspension, parce que la suspension, elle n'interrompt pas le délai de paiement du comptable. Si c'est pas bon, on préfère.
Monsieur le Président, on parle de délai de paiement, donc là vous avez abordé le délai du comptable, mais le délai de paiement de l'ordonnateur, on a vu effectivement qu'il était de 20 jours, mais quel est son point de départ et quel est justement son point de chute? Parce que dire 20 jours, ça mérite effectivement d'avoir un complément. Alors effectivement, l'accusé de réception en commune, donc là c'est dans l'hypothèse où la facture est réceptionnée par la commune, mais elle peut être éventuellement réceptionnée par un maître d'œuvre. Donc vous pouvez effectivement avoir vos factures de travaux qui sont envoyées directement chez le maître d'œuvre pour vérification, dans le cadre effectivement d'un marché de travaux, là où vous avez effectivement retenu une équipe de maîtrise d'œuvre et vous avez une personne qui suit donc le dossier chez qui vous envoyez toutes les factures. Donc méfiez-vous, le délai de paiement donc court effectivement à partir de la date d'entrée dans la commune, donc cachet d'entrée, si vous n'avez pas de cachet d'entrée, c'est la date de la facture majorée de 2 jours. Donc ça effectivement c'est précisé par le décret de 62, donc portant règlement général de la comptabilité publique, et effectivement si vous avez un maître d'œuvre. Monsieur le maire.
Il faut faire très attention, disons, parce qu'il y a des factures qui sont pour le mois, disons, précédent, datées du mois précédent, et qui vous arrivent à la fin du mois, disons, où l'intérêt, disons, vient d'être caché.
Le cachet d'entrée, effectivement, c'est quelque chose à mettre, mais sur tous les courriers. Hein. C'est, je ne sais pas si, de manière systématique, il faut prévoir effectivement une date d'entrée. Hein, comme ça, vous savez effectivement quand est-ce que vous avez réellement réceptionné la demande d'un administré, ou là, en l'espèce, une demande de paiement. Concernant justement le point de chute, on parle de 20 jours, donc on a vu effectivement la date de départ. Donc, quelle est la date de fin, justement, de ces 20 jours? De ces 30 jours, pardon, pour le délai de paiement global, pour moi. C'est la date à laquelle le comptable, finalement, a procédé au paiement. Donc, lui, le comptable, vous informe du jour à partir duquel il a procédé au virement. Donc, vous connaissez le point de départ, le point de fin, et vous êtes capable, effectivement, de voir si les 30 jours sont respectés. Après, on voit, effectivement, dans le détail, la répartition. Concernant vos marchés de maîtrise d'œuvre, et notamment dans le cadre de marchés de travaux pour lesquels vous avez effectivement les factures qui vont directement chez le maître d'œuvre. Systématiquement, mettez une clause pour vous défendre, pour vous protéger, et notamment des maîtres d'œuvre qui ne seraient pas très vigilants vis-à-vis du délai de paiement. Il faut impérativement que vous prévoyiez une clause qui vous protège financièrement, c'est-à-dire qu'il y a une pénalité pour le maître d'œuvre si le délai qui lui est réservé est dépassé. Que vous ne soyez pas obligé de payer des intérêts moratoires à une entreprise sans pouvoir vous reporter sur le maître d'œuvre qui lui aurait été un peu négligent. Imaginez par exemple une facture qui soit réceptionnée courant juillet et peu importe, le maître d'œuvre pendant cette période de congé estival laisse un peu traîner les choses et vous renvoie la demande de paiement courant septembre. Donc que vous n'ayez pas effectivement à réparer les erreurs qui auraient pu être commises par votre maître d'œuvre. Hein. Donc soyez très vigilants, excusez-moi monsieur le président.
Oui, le maître d'œuvre, il travaille pour votre compte. Hein. Donc si la facture est envoyée directement chez lui, le délai court à partir de sa réception chez lui. Alors la sanction de cet éventuel non-respect du délai global, c'est le paiement d'intérêt moratoire. Donc la réglementation dit que l'ordonnateur doit normalement mandater les intérêts moratoires en même temps que le principal. C'est impossible, parce que quand vous envoyez votre mandat à la trésorerie, vous ne savez pas quand la trésorerie va payer. Donc, c'est plus, comme disait M. Anzo, le comptable qui va vous dire, voilà, on a payé à telle date, compte tenu de la date de réception de la facture, le montant des intérêts moratoires s'élève à tant, et vous demandez à les mandater. On ne le fait pas systématiquement, loin de là. Je vous rassure, on ne va pas vous embêter tous les matins avec des intérêts moratoires à mandater pour 3 francs 6 sous. Voilà. En règle générale, on n'a pas trop de collectivités qui dépassent de manière outrageuse ce délai de paiement. Je ne sais pas, là parmi vous, il y en a qui ont des problèmes de trésorerie particuliers qui font que vous seriez en retard dans le paiement de vos factures. Pas forcément, hein, c'est pas. On n'a pas beaucoup de collectivités qui sont embêtées avec ce point-là.
Mais vigilant, puisque le contexte économique fait que les entreprises donc sont à la recherche de liquidités. Et c'est vrai qu'on fait un petit zoom sur les intérêts moratoires, c'est que tous les moyens sont bons actuellement pour les entrepreneurs pour récupérer quelques deniers. Donc c'est vrai que s'il y a un retard de paiement, parce que c'est pénalisant hein, pour une entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle, vu que c'est d'ordre public, ça veut dire que finalement l'entreprise n'a même pas finalement à faire la demande, ça doit être mandaté d'office, mais on a bien vu que c'était encore une souplesse qu'on se permettait donc de pas vous solliciter obligatoirement. Mais il faut être vigilant et le contexte économique fait que les entreprises peuvent vous les imposer.
Voilà, si l'entreprise en bout de ligne vous dit mais vous n'avez pas respecté le délai global et vous me devez des intérêts moratoires, là bien sûr il faut s'y plier et il faut payer les intérêts moratoires, on n'a pas le choix. Hein.
Surtout que le taux est de 8%, donc imaginez par rapport à une demande de paiement, c'est quelque chose qui peut tout de suite prendre de vives proportions. Hein.
Alors vous voyez peut-être aussi circuler des statistiques, parce que tout ça se mesure, donc il y a des statistiques qui sortent assez régulièrement sur le délai de paiement de l'État, des collectivités locales, et je crois que dans la région, mais monsieur Anzo me contredira si c'est pas vrai, le dernier délai qui a été donné pour les collectivités locales et établissements publics locaux doit être de 45 jours, quelque chose comme ça. Alors ce délai, il est complètement plombé par de grosses collectivités, genre certains centres hospitaliers par exemple, qui font énormément de mandats et qui ont d'énormes problèmes de trésorerie. Donc forcément, il y a des collectivités qui sont pénalisantes par rapport à la masse, et comme les stats se font par nombre de mandats payés, les vôtres, ils pèsent pas bien lourd. Si avec vous, on respecte le délai global, il y a d'autres collectivités souvent plus importantes qui ont bien du mal à le respecter et donc qui font déraper les statistiques.
Il faut simplement savoir que la Fédération du bâtiment et des travaux publics joue une sorte de lobby auprès de la préfecture de région pour justement contraindre les collectivités en matière de délai de paiement. Et là, récemment, pour avoir assisté à une réunion à la préfecture, où la fédération invoquait le délai de 45 jours pour les 10 plus grosses entreprises donc de la région. Donc, comme l'a dit M. Schmitt, ce n'est pas forcément les communes qui sont concernées. Hein, c'est de manière globale les établissements publics et notamment les hôpitaux qui poseraient a priori problème.
Voilà, donc sur les intérêts moratoires, sachez que ça existe, que ce n'est pas non plus quelque chose qu'on ne rencontre jamais. Si vous n'avez pas trop de soucis, vous mandatez normalement, on ne devrait pas y arriver. Mais moi, j'en ai fait mandater à certaines reprises pour des collectivités qui manifestement n'avaient pas de difficultés particulières, mais qui étaient complètement à la bourre pour payer des situations de marché. Il faut se mettre à la place quand même de l'entrepreneur derrière, hein, du fournisseur, qui lui ne voit pas son argent arriver et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas payé, surtout si on a les moyens de le payer. Donc, dans certains cas, on intervient aussi pour faire mandater des intérêts moratoires s'il y a manifestement dérapage. Voilà ce que je voulais dire en introduction un petit peu sur les généralités, sur la liste des pièges justificatives. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau ou est-ce qu'on poursuit?
Est-ce que vous avez déjà réquisitionné votre comptable?
Ah, on n'a pas parlé de la réquisition du comptable.
C'était pour le top, hein.
Alors la réquisition du comptable, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Ben, comme son nom semble vouloir le dire, ça veut dire que l'un comptable ne serait pas d'accord pour payer toutes vos dépenses, et vous, ordonnateur, vous réquisitionnez le comptable pour, malgré les griefs qu'il a à vous opposer, pour que cette dépense soit payée. Alors, comme ça paraît pratique, sauf que la réquisition du comptable, vous l'adressez bien sûr à votre comptable, mais vous l'adressez aux représentants de l'État, hein, donc préfet, sous-préfet. Comme une délibération, et elle a pour rôle essentiel de faire payer la dépense, mais aussi d'inverser la responsabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le comptable est déchargé de sa responsabilité, c'est l'ordonnateur qui endosse la responsabilité du paiement fait éventuellement au vu d'une réquisition. Le comptable, de son côté, donc, s'exécute, paye la dépense, mais fait remonter l'ordre de réquisition à la Chambre régionale des comptes via sa direction. Donc ça veut dire que tout le monde est au courant que vous avez réquisitionné le comptable ne voulait pas payer, que le maire veut payer. Donc c'est à manipuler quand même avec beaucoup de précautions, et vaut mieux plutôt que de réquisitionner, de passer un coup de fil et essayer de se mettre d'accord avec lui avant de procéder à des ordres de réquisition. Alors là aussi, hein, c'est prévu, ça existe. Je ne sais pas, au département de Meurthe-et-Moselle, combien il y a d'ordres de réquisition par an. S'il y en a un ou deux, ça doit être des bonnes années, quand il y en a deux. Donc c'est vraiment à la marge pour des situations un peu exceptionnelles. Dernière parenthèse sur l'ordre de réquisition, vous ne pouvez pas réquisitionner le comptable non plus pour n'importe quel motif. Si le comptable ne paye pas parce qu'il n'y a pas de sous dans la caisse, l'ordre de réquisition il est inopérant, opérant. Merci Michel.
C'est pour le plaisir, c'est pour l'anecdote, ça fait toujours sourire.
On est content que le comptable ne paye pas parce que ça nous permet de
couvrir. Allez-y.
Parce que finalement, la commune a payé. Donc, si vous payez une amende, c'est l'État qui encaisse.
Oui. Alors, il y a deux.
Non, mais où va l'argent?
Allez-y.
Où va l'argent? Parce que j'ai déjà entendu parler de ça, je me dis, mais où va l'argent?
Alors,
c'est l'État qui récupère.
Il y a deux sortes de délais. Il y a des délais. Alors, ça sort dans la nouvelle loi là, qui va sortir. Il y a des délais avec préjudice et des délais sans préjudice. Un délai sans préjudice, c'est celui auquel vous pensez.
La Cour des comptes arrive, elle dit il y a un faux, enfin, c'est pas réglementaire, mais de toute façon, l'entreprise a été payée, la commune a payé, il n'y a rien.
Exact. Mais c'est nous qui sommes pénalisés dans cette affaire-là.
Oui, parce que nous, on est tenus de travailler en respectant les principes de la comptabilité publique, sincérité des comptes, etc., etc. Vous pouvez présenter une dépense, par exemple, sans avoir de crédit ouvert sur un compte ou sur un chapitre. On la paye, on paye en dépassement de crédit. La dépense, elle est réelle, vous vouliez bien payer votre fournisseur, il n'y a pas de préjudice pour la commune puisqu'elle voulait bien payer. Par contre, nous, on a fait quelque part une erreur. On ne va pas parler de faute, on va parler d'une erreur. Et cette erreur-là, elle est sanctionnée, et c'est normal quelque part, parce que on n'a pas fait notre boulot correctement. Donc ça, c'est le délai qui serait sans préjudice. Mais il peut y avoir des délais avec préjudice. Hein. Je ne sais pas, dans un marché public, il y a une révision de prix, elle a été calculée par votre maître d'œuvre ou par vous, et en fait, elle a été mal calculée, on paye beaucoup trop que ce qu'on aurait dû payer. Là, il y a une dépense qui a été faite à tort par la collectivité qu'on a payée. Donc là, le délai, il est au montant du préjudice, et on reverse dans la caisse de la collectivité. Alors le DB, c'est sans préjudice dans l'ancien système, quand on était mis en DB, les fonds, ils vont quand même à la collectivité.
Ah, je crois, hein,
c'est même un enrichissement sans cause pour la collectivité.
Évidemment, il y a préjudice, c'est à partir de... Avec ou sans préjudice, il y a une faute, la dépense a été payée de manière indue, elle est donc reversée à la collectivité.
Je crois que l'aberration du système est même allée jusqu'à... vous savez que le comptable, il doit produire un état de l'actif à son compte de gestion. Il y a une chambre régionale des comptes qui a mis un comptable en DB pour non-production de l'état de l'actif. Et il l'a mis en DB pour la totalité de l'état de l'actif. Bonne affaire pour la collectivité. Donc là, heureusement que derrière, il y avait ces mécanismes régulateurs remis du ministre, etc., qui viennent corriger ça, parce qu'il n'y a pas de raison que la commune elle récupère dans ses caisses le montant total de l'état de l'actif.
Alors à ce moment-là, l'argent va... Si la commune ne touche pas,
s'il y a remise gracieuse pour le comptable, s'il y a remise gracieuse pour le comptable, elle ne touche pas.
Ben, elle peut décider la remise gracieuse. La collectivité va être sollicitée dans le cadre de la remise gracieuse pour savoir si oui ou non elle accepte. Mais c'est un avis consultatif, hein. C'est pas un avis définitif.
Peut-être c'est clair.
Ah, c'est une vie dangereuse.
Mais j'aurais aimé dire parce qu'il y a des communes qui prennent.
On se fait pas mal à crancher en ce moment sur les recettes. Hein, parce que tout le monde court après l'argent. Donc il y a des collègues qui ont un mal de chien à faire du recouvrement parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que c'est difficile, parce que voilà. Et il y a des jugements qui sont pris par certaines chambres en matière de recettes. Parfois, pour exemple, le montant d'un état de reste où il n'y a pas de justification des restes, le montant complet de l'état de reste, on est mis pour le comptable. Donc, Mais bon, ça ne vous empêche pas. Quand on continue ce métier-là, ça ne vous empêche pas de dormir.
Vous êtes pris sur votre
temps. Bon,
je fais des tests,
mais ça va. Voilà.
On continue ?
On continue ? Alors, donc, quelques dépenses un peu particulières. Donc, on a mis deux mots sur les conventions. Convention ou contrat, qu'est-ce qu'il faut pour payer une dépense liée à une convention ou un contrat ? Il faut la délibération qui autorise le maire à signer le contrat ou la convention, le contrat de la convention elle-même, et puis l'avis de paiement. Donc ça, on peut le trouver lorsque vous avez des relations entre collectivités locales aussi. Hein, vous avez souvent des relations entre syndicats communes, communes interco, entre communes elles-mêmes. Donc on est dans ce cadre-là, toujours une délibération qui autorise le maire à signer le contrat ou la convention. Alors, lorsqu'un contrat doit être produit, ça c'est une règle générale, il ne l'est qu'à l'appui du premier mandat. Ça, tout le monde le fait en général. Par contre, ce que beaucoup de collectivités oublient, c'est que les mandats suivants doivent normalement rappeler le numéro de mandat auquel le contrat ou la convention a été initialement joint. D'accord. Et tout contrat mentionné dans une pièce justificative, une facture par exemple, doit être produit à l'appui du mandat. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez une facture qui fait référence à un devis, normalement le devis doit être joint. Si sur la facture il n'y a pas de référence à un devis et que la facture est détaillée, il n'y a pas de problème. Si vous avez une facture qui éventuellement ne serait pas détaillée et fait référence à un devis, bah, vous pouvez mandater avec votre facture non détaillée, mais vous joignez le devis. Il faut toujours que le comptable soit en mesure de vérifier la liquidation de la dépense. Ok, pour le numéro de mandat, la mention du numéro de mandat sur les mandats suivants par rapport à au mandat auquel a été joint la convention, ça nous rend bien service à nous et au juge des comptes derrière, de savoir à quel mandat a été joint le contrat qui a déjà été produit. Parce que souvent, c'est une petite source de conflit entre les agents de nos services et les secrétariats de mairie. On réclame une pièce et à un moment on dit « Mais on l'a déjà produit, on l'a déjà donné, ça fait trois fois. » Oui, bah oui, sauf que c'est pas marqué sur le mandat en question qu'elle a déjà été produite avant. Donc, pensez aussi que dans les trésoreries, on a un certain nombre de collectivités à gérer. Vous avez la vôtre, c'est bien, vous avez 2-3 budgets annexes. Mais moi je fais 160 budgets en tout sur la trésorerie. Michel, je ne sais pas comment.
Non, 75.
Mais,
c'est les plus grosses.
Alors oui,
93.
Donc voilà. Il faut qu'on soit un peu organisé, sinon on ne peut pas. Alors un petit mot sur les subventions. Alors les subventions, donc. La décision du conseil municipal est souvent adoptée à l'occasion du vote du budget de la collectivité. Donc en règle générale, c'est un chapitre 657 subventions qui est détaillé au budget. Donc vous joignez à l'intérieur même de votre budget la liste de subventions que vous voulez octroyer dans l'année. Donc on vous dit qu'il peut y avoir un autre cas, c'est lorsqu'il y a une décision qui arrête le bénéficiaire et le montant. Ainsi que l'objet, le cas échéant, les conditions d'octroi de la subvention et ses charges d'emploi. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous décidez d'une subvention sous certaines conditions et que vous faites un contrat ou une convention avec l'association à qui vous allez verser une subvention, ben, il y a une décision particulière. Alors, la convention entre le bénéficiaire d'une subvention et la collectivité, elle est obligatoire au-delà de 23 000 euros.
C'est ce qu'on appelle une convention d'objectif pour les collectivités, effectivement, qui ont ce genre de conventionnement.
Ça se comprend, hein, avec 3 000 euros, on peut commencer à demander des comptes et des retours sur les subventions qu'on octroie. Donc le législateur a fixé ce seuil à 23 000 euros. Rien ne vous empêche de faire des conventions en dessous de 23 000 euros, si vous voulez en faire, mais ce ne sera pas une pièce justificative obligatoire. Là, il y a pas mal de cas de délai, encore une fois, de certains comptables sur ce point-là. Les juges des comptes regardent ça de près, les subventions versées, et s'il n'y a pas de convention, on se fait allumer.
C'est notamment, puisque c'est de l'argent public, Donc c'est pour savoir effectivement comment utiliser cet argent. Donc c'est vrai qu'à partir de 23 000 euros, on a estimé que le seuil était assez important, donc d'où la nécessité d'avoir un conventionnement. Après, à vous, en interne, à justifier effectivement l'attribution ou non des subventions et éventuellement demander en compte des contreparties.
Voilà, et puis petit rappel, le juge des comptes peut demander les comptes d'une association bénéficiaire d'une subvention à partir d'un montant de 1 500 euros. Donc ça, vous pouvez des fois le rappeler aussi à vos présidents d'associations qui vous présentent parfois des pseudo-clients, des choses. Bon, il faut qu'ils soient un petit peu sérieux aussi. S'ils ont une subvention de plus de 1 500 euros, le juge des comptes, à l'occasion de l'examen des comptes de votre collectivité, peut demander communication des comptes de l'association. Ça peut-être des fois l'affaire un peu long.
Sachez qu'il n'y a pas de droit à la subvention, je fais un petit aparté, il n'y a pas de droit à la subvention, ça veut dire que les associations vous font des demandes, après vous décidez, hein, quoi, le conseil municipal décide en toute intimité d'attribuer ou non la subvention. Donc ça c'est effectivement une des choses très importantes. Je ne sais plus. Ça c'est vous qui l'a fixé. Quoi, vous fixez justement les règles pour attribuer ou non les subventions. Il faut savoir qu'il y a certaines associations, je dis bien certaines, hein, qui ont des vrais trésors de guerre. Donc elles ont l'habitude effectivement de solliciter les collectivités pour obtenir des subventions. Cependant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'utilisation. C'est pour ça que le juge des comptes, effectivement, vérifie.
Alors, il y a une condition peut-être, c'est qu'elle est un intérêt communal, hein, l'association. Si vous devez
pas un trésor de guerre,
c'est parce qu'il y a une boule que vous roulez. Maintenant, il y a des associations d'intérêt général, s'il y a n'importe quoi. Là, vous pouvez, bien sûr. Mais en général, les subventions, elles sont quand même conditionnées par le fait que l'association travaille au profit et qu'il y a un intérêt communal. C'est souvent le cas, d'ailleurs, de beaucoup des dépenses que vous devez faire. Les dépenses, certaines dépenses ne peuvent pas paraître aberrantes ou être discuté par le comptable, parce qu'on peut parfois discuter le caractère d'intérêt communal de certaines dépenses. Hein? C'est un des principes maintenant que discuter pendant ces 7 ans sur certaines dépenses d'intérêt communal, mais les subventions, c'est ça.
Alors, on parle des associations qui font systématiquement des demandes de subventions sans forcément les utiliser et qui se constituent dans des zones de guerre, mais inversement, vous avez aussi des associations qui font du boulot, qui ont besoin de leurs subventions. N'attendez pas, parce que ça je le vois dans certaines communes, pratiquement le dernier fonds de roulement de l'année, c'est les subventions. Car si l'association du coin elle a 500 euros de subvention et qu'elle attend dessus pour fonctionner dans l'année, si vous avez un peu de trésorerie, payez vos subventions assez tôt après votre budget, c'est pas la peine d'attendre la fin de l'année pour les payer, parce que en attendant. Et c'est comme ça aussi après que les associations se font des petites réserves, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas compter sur la subvention de l'année pour fonctionner l'année, donc déjà ça décale, donc essayez de les payer assez rapidement, je trouve que c'est mieux.
Quels sont les critères d'irrecevabilité d'une demande de subvention que vous ne pourriez pas payer?
Pour nous, on n'est pas juge du tout, ça c'est le grand principe numéro un, on n'est absolument pas juge de l'opportunité de vos dépenses.
Donc, mais s'il y a un trésor de guerre, c'est parce que justement, il y a ce trésor de guerre.
Pour nous, il n'y a pas de critère.
On vérifie, il n'y a pas de trésorerie, admettons, et puis on réclame la subvention.
Ça, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de leur demander certains éléments. C'est vous qui allez vous rendre compte, peut-être, qu'il y a des trésors de guerre ou pas, parce qu'ils vont aussi vous envoyer, peut-être des fois, ce qu'ils ont envie de vous envoyer. Hein. C'est pas facile d'aller.
Je crois quand même que vous êtes en position de force. Quelqu'un qui vient vous demander une subvention, qui demande des fonds publics, si vous dites « je veux votre relevé de compte les deux derniers mois », si vous ne la prenez pas, vous dites « votre subvention, vous reviendrez ». Je veux dire, à la limite, vous êtes quand même dans une position de force. Il s'agit de fonds publics.
Mais on est vite mis au pilori si on ne donne pas la subvention.
Tout dépend de la nature de l'association.
Je crois qu'il faut.
Ce que vous dites est vrai.
Parce qu'on a une expérience criarde sur l'agglomération où les collectivités n'ont pas voulu donner une subvention, je dirais, globale d'intérêt de la collectivité, laissant chaque commune de verser. Et après, on demande à un groupement de communes, parce que ça sera plus intéressant, de donner une subvention, même si à l'intérieur, il y a des personnes qui n'aiment pas. Et là, à ce moment-là, les personnes n'en ont absolument rien à faire de ce que l'on peut penser de tout ça. Là, on est au pilori parce que la subvention, on ne l'a pas donnée, on ne l'a pas partagée, il n'y a rien du tout. Alors, il y a quand même un moment donné quand on je veux pas dire quand on refuse de donner les cahiers de compte, en général c'est donné. Mais si à côté, ils ont tous la marotte parce que nos trésoriers gèrent bien en principe les associations, on ne peut pas s'en plaindre. Au contraire, on voit que des personnes qui étaient, je ne vais pas dire dans le civil, mais en activité, je dirais, des personnes qui étaient attachées à cette rigueur, après ça devient un peu maniaque, comme on dit. On thésaurise quand on aime bien. Regardez le compte, monsieur le maire, vous verriez, pas de problème. Mais à un moment donné, la commune est en panne pour les distribuer. J'ai entendu des collègues qui disaient, oui, mais à ce moment-là, il n'y a rien qui est versé encore. Je crois qu'il y a une règle prudentielle quand même.
Mais chez moi, chez les collectivités locales, qui versent des acomptes, et qui, à mon avis, mais ça, moi je ne le vois pas, attendent la fin de l'année, se font justifier de la nature des dépenses effectuées dans l'année et versent le solde. Et ce n'est pas des petites communes, ce sont des gros. La subvention est de l'ordre de 8 à 10 000 euros. Hein? Donc c'est pas tout à fait négligeable. Et on a des démarches comme ça en disant, bon d'accord, vous avez décidé d'eux, on vous donne 4 000, justifiez-nous voir un peu ce que vous avez fait dans l'année. Et puis le reste va arriver. Je ne pense pas qu'il y ait une comptabilité derrière, ni à une acquisition folle et terrible dessus. Mais on verse d'abord des annonces en disant maintenant on va voir ce que vous allez faire avec ces sommes-là. Je trouve la démarche dans certains cas parfaitement légitime. Tout dépend de la nature. Hein. On parle, faites attention, on ne parle pas d'une manière générale de toutes les associations. Une association de foot, c'est très bien, on voit très bien, les mecs qui sont en short n'ont pas un ballon. Hein. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, il y a une activité, ils se déplacent. Il y a d'autres associations dans lesquelles on se dit l'intérêt communal est là, mais est-ce que véritablement ça travaille, etc. Donc on peut, vous pouvez être un petit peu exigeant. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est du pognon public et en général c'est le nôtre quand même.
Voilà, là sur ce point-là, la règle du jeu, c'est vous qui la fixez. Voilà, vous la fixez comme vous voulez, mais c'est vous qui la fixez et ça ne nous regarde pas. Nous, on ne paiera qu'au vu de votre décision du conseil municipal d'intégrer dans le budget ou d'une délibération qui viendra en cours d'année pour attribuer une subvention à telle ou telle personne. La seule chose qu'on contrôlera, c'est la présence donc, de cette décision et c'est la présence de la convention au-dessus de 23 000. Le reste.
Par exemple, j'ai une communauté de communes qui, elle, a pris des compétences en matière de spectacle. Eh bien, elle versera la subvention une fois que le spectacle aura été réalisé, une fois que le coût aura été déterminé. Voilà. C'est-à-dire, elle dit, moi, je prends 35% des frais, eh bien, elle veut qu'on lui justifie après des frais qui ont été faits, et elle versera 35%. Donc, au maximum, ce qu'elle a prévu, elle versera 35%. Voilà. Donc, c'est vous qui, dans ce domaine, fixez les règles. Comme dit Alain, nous, on paiera derrière. Et on n'est pas juge de l'opportunité. Mmh. Ok. Jamais dans aucune de nos dépenses. Il faut le savoir. On n'a pas à se poser la question de savoir si vous dépensez bien ou si vous dépensez mal. Ce n'est pas notre problème. Le seul problème qu'on peut avoir, le seul conflit qu'on peut avoir, c'est considérer qu'une dépense, on peut l'estimer qu'elle ne soit pas d'intérêt communal.
Il va y avoir des suppressions.
Et c'est tout. Mais c'est relativement rare. Enfin, j'ai vu peu de cas où des dépenses n'étaient pas d'intérêt communal. Pardon ?
Conflit d'intérêt.
Oui, bien sûr.
Oui.
C'est quand même tellement facile. Il n'y a pas de complications. Contrairement à certaines dépenses. C'est la dépense la plus libre d'association. Le mandat le plus libre dans une collectivité, c'est le mandat à une association.
Ah oui, absolument.
Bon. Il en est ainsi. Compte rendu, ça figurera probablement. Non, mais c'est vrai que pour nous, c'est toujours.
Est-ce qu'on peut contester qu'il y a un problème comme ça qui n'est pas d'ordre d'intérêt communal ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai jamais ça accepté.
C'est le tribunal administratif, hein, vu que c'est une décision administrative, la délibération, dans les 2 mois, donc vous pouvez intenter une action devant le tribunal administratif, mais ça c'est vraiment le cas extrême. Hein. Donc sachez aussi, méfiance, quand le conseil municipal décide d'une subvention,
il faut éviter effectivement qu'il y ait une gestion de fait. Le fait de savoir pour quelle raison la subvention a été allouée, ça c'est aussi quelque chose donc à manier avec précaution la subvention. Donc lors du vote de la subvention, tous les conseillers municipaux intéressés n'ont pas le droit de vote. Donc voyez-vous, il faut être toujours vigilant, et l'attribution de la subvention c'est une somme, mais c'est vrai qu'au niveau de l'affectation, normalement il doit y avoir une certaine ouverture pour l'association et un choix d'attribuer l'argent comme bon lui semble, quoi. L'association est libre.
Vous avez par exemple des subventions qui sont versées pour l'acquisition de matériel. On décide de verser 500 euros pour l'acquisition d'ordinateurs. La commune ne versera la subvention que quand elle aura vu la facture acquittée de l'ordinateur. C'est classique.
Comme le département, c'est pour vous.
En matière de subvention.
On enchaîne ?
Ok, on enchaîne. Mais c'est souvent comme ça, les subventions dans les conseils municipaux, je crois que c'est aussi quelque chose qui suscite des débats parfois.
Bien sûr, c'est pour ça qu'il est intéressant de l'aborder.
Des enjeux qui ne sont pas toujours...
C'est pas plaisir, mais...
Voilà, donc on va enchaîner sur les dépenses de personnel. Je vais passer la parole à Michel, donc, et ensuite on enchaînera sur les marchés publics.
Un petit instant, je me mets simplement la page.
Alors je voulais juste vous dire une chose, on ne va pas étudier spécifiquement l'ensemble des dépenses de personnel. Ça mériterait bien évidemment une formation tout à fait spécifique. On organisera peut-être un jour ou l'autre, mais que l'association des maires peut organiser, mais il est bien évident que je ne vais pas m'attacher aux différents types de personnel. Ce qui nous intéresse surtout, c'est pièges justificatifs à l'appui des dépenses de personnel. C'est ça qui est important. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, quand vous payez les gens, comment vous les rétribuez, ça c'est un autre problème. Est-ce que vous le rétribuez en tant que permanent, non permanent, privé, statut privé, public, ça, c'est un autre problème. Et dans un premier temps, de savoir quels sont les pièces que vous devez joindre à la paix. Je ne pense pas, enfin, c'est mon sentiment, est-ce que c'est dans les dépenses de personnel que vous avez le plus de problèmes? Je n'ai pas le sentiment que dans ce domaine-là, il y ait beaucoup de difficultés. Et on va quand même le rappeler. Donc je vous rappelle qu'il y a, dans les grosses collectivités, je pense surtout à Longwy, un tableau des effectifs et un tableau des emplois. Bon, celui-là, il a un jour ou l'autre été voté, et il est au fil de l'eau remis à jour. C'est-à-dire que demain, vous pouvez, par délibération, j'insiste bien par délibération, eh bien augmenter le nombre des personnels employés, décider d'employer par exemple des personnels particuliers, je ne sais pas, imaginons que demain des saisonniers, mais je prends aussi l'exemple d'une collectivité locale qui prend en gestion un cinéma. Si vous regardez le tableau des emplois dans la collectivité locale, un projectionniste, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Par exemple aussi. Voilà. Donc là, vous décidez d'employer quelqu'un qui est un peu particulier. Ça veut dire, à la base, quel que soit l'emploi, il doit avoir été créé. Si vous le créez à ce moment-là, le seul moyen de le créer, c'est une délibération. Deuxième élément, une fois que vous avez créé un emploi, il faut leur mettre quelqu'un sur emploi. On est bien d'accord. Donc la deuxième démarche, c'est le recrutement effectif. Cela suppose la production d'une décision par laquelle derrière l'emploi de, vous mettez monsieur ou madame Durand. Et vous précisez très précisément les conditions dans lesquelles vous l'employez. Alors si c'est du privé, si c'est un statut privé, prenons par exemple les emplois aidés à l'heure actuelle, ben vous avez un contrat, et puis vous avez le contrat que vous avez signé avec l'État pour l'embauche de la personne. Vous avez d'abord eu la délibération qui vous a autorisé vous-même à embaucher un QI ou un CAE, etc. Puis derrière, vous avez la convention passée avec l'État, et ensuite vous avez le contrat que vous avez passé avec Dupont et Durand. Et ensuite, dernier point, toute l'évolution de la situation administrative, ben, ça veut dire qu'il faut une décision. On est bien clair.
Qui est très humide, c'est notre trésorier, vice-président de la
société. Il discute, il joue avec le soir. Il est plus attentif.
Tant pour moi.
Chaque fois, on lui fait le coup, on aime bien. Hein,
c'est moi qui l'ai distrait, je m'en excuse.
Pardon ?
C'est moi qui l'ai distrait un peu.
Non, 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 non. Et chaque fois, ça nous fait plaisir. Donc l'acte d'engagement d'une personne, d'abord, hein, vous faites toujours référence à la délibération par laquelle vous allez créer l'emploi. Alors, il est bien évident que si la délibération elle date d'il y a 30 ou 35 ans, vous avez quand même conservé, et des fois, parfois même nous, on a conservé la référence de la délibération qui crée tel et tel emploi. Mais c'est de moins en moins fréquent. On identifie cette fois-ci très précisément sur l'arrêté de nomination, c'est souvent ça, l'arrêté de nomination, on identifie très précisément la personne et on fixe très clairement les conditions de son recrutement, c'est-à-dire financier, qu'est-ce qu'elle va toucher comme prime, qu'est-ce qu'elle va avoir comme rémunération, est-ce qu'elle va pouvoir faire des heures supplémentaires, etc., etc. Quelles sont les contraintes qui sont attachées à son embauche? Donc, selon le cas, on a l'impression un peu de se répéter, soit vous avez un arrêté de nomination, parce que c'est un fonctionnaire d'État, enfin public, j'allais dire d'État, non, parce que c'est un, quelqu'un qui a le statut de fonctionnaire, il est embauché dans un cadre d'emploi, avec un grade, il arrive par mutation, souvent, il peut arriver par mutation, mais par différents autres moyens, suite à un concours, particularisation, ou alors, dans un deuxième temps, vous avez systématiquement un contrat. Je crois que ce qu'il faut surtout retenir dans les pièges justificatifs, c'est délibération et décision derrière qui précisent les conditions. Après ça, d'un mois sur l'autre, on va voir qu'il y a peu de pièces à joindre à l'appui des dépenses de personnel. Est-ce que ce que je vous dis pose... Non. Clair. Tant mieux. Alors après, à chaque paiement supplémentaire, ben, il y a, on dit, un état nominatif valant des comptes individuels. En français, c'est une feuille de paie, hein, bêtement, sur lesquelles vous avez l'ensemble des éléments liquidatifs et que l'on compare avec l'arrêté de nomination que vous avez pris, on s'aperçoit bien que vous le rétribuez à tel grade, à tel corps, avec tel indice, etc., avec telle indemnité de résidence, etc., etc., etc. Donc, chaque paiement qui intervient en matière de salaire, c'est la feuille de paye qui fait objet de pièces de dépense. C'est ce qu'on dématérialise en premier. Je parle surtout des grosses collectivités. Je ne sais pas si c'est le cas à Longby, mais on dématérialise de plus en plus les feuilles de paye. La dématérialisation de la paye, à la place d'avoir les feuilles de paye, on a un CD-ROM sur lesquels tous les personnels sont répertoriés, ce qui nous permet de faire un tri, un choix, etc., sur les gens qu'on veut contrôler. Mais ça suppose bien évidemment un effectif et des personnels un peu conséquents. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les grosses collectivités qui sont... Mais à partir du moment où on atteint 50, 60, une centaine de personnes, au-delà, la dématérialisation devient quelque chose d'intéressant. Ça réduit aussi le nombre de feuilles de paye à éditer. Vous n'avez plus qu'une à éditer pour l'employé. Bon, il y a également, en ce qui concerne la paye, chaque fois un état récapitulatif global qui ventile par chapitre, article du dessert, l'ensemble des imputations. Enfin, vous avez l'ensemble des frais, vous avez les traitements bruts, les traitements nets, toutes les indemnités, toutes les cotisations sociales. Et vous savez très bien que pour les cotisations sociales, enfin, vous avez des états liquidatifs par type de cotisation à payer. Hein, je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Et encore une fois, donc c'est ce que je disais au départ, toute décision, modification, et bien derrière, vous avez un arrêté de nomination qui décide, ben, il est promu, il a de l'ancienneté, comme tout le monde, il vieillit, et bien voilà. Le jour où on paye différemment, et bien il faut expliquer pourquoi, au comptable, on le paye différemment, parce que pourquoi son salaire n'est plus ce qu'il était. Bien évidemment, quand il s'agit de quelqu'un embauché sur un contrat, ben, on a un nouveau contrat.
Il y a simplement quelque chose sur lequel il faudrait être vigilant aussi, c'est le principe de non-rétroactivité des actes administratifs qui fait qu'on ne peut pas avoir, par exemple, un document qui serait transmis, alors je parle d'un document qui serait transmis à la préfecture, hein, si besoin, ou alors un arrêté qui serait pris, mais dont la date d'effet serait antérieure. Par exemple, en date du jour, on dit que la personne est rémunérée à partir du 1er janvier 2012 à tel taux ou bénéficie de telle indemnité. Ça, vous ne pouvez pas faire. Par contre, à la date du jour, vous décidez qu'à partir de cette date, la personne peut bénéficier de telle indemnité, oui, mais pas de rétroactivité, parce que là, il y a un risque effectivement juridique sur votre acte.
Ensuite, alors, quelques types de dépenses un peu particulières. le supplément familial de traitement lié à, j'allais dire la propriété, la possession de l'enfant, et au fait qu'ils sont en âge scolaire, qu'ils ont moins de 20 ans s'ils font des études, etc. En règle générale, on demande désormais une fois par an, je pense surtout les grosses collectivités, un état global, en général au mois d'octobre, c'est ce qu'on fait chez nous, on demande un état global pour toute la collectivité, de l'ensemble des personnels qui perçoivent l'indemnité. Et on indique à côté, ben voilà, madame perçoit une indemnité pour deux, et bien donc on donne le nom des enfants, on donne la date de naissance, et ça vaut pour l'ensemble de l'année, on se chargera nous, enfin, en tout cas c'est ce qu'on fait à ESSEC, de vous dire, attention, il a dépassé les 20 ans, il a plus 16 ans, etc., etc. Vous ne pouvez plus prétendre au supplément familial de traitement. Également préciser que c'est bien la personne embauchée à la collectivité qui perçoit le supplément familial de traitement, qu'il n'y a pas également le mari qui perçoit, qu'il n'y en a bien qu'un seul. Hein, on est bien d'accord. Nouvelle bonification indiciaire, ben vous êtes simplement dans une décision qui est prise par le conseil municipal, par le conseil, par l'élu, qui décide de dire, ben voilà, madame Attel exerce des fonctions d'accueil à la mairie de Longwy, bien l'accueil à la mairie de Longwy, c'est un poste qui ouvre droit à la nouvelle bonification indiciaire, bien voilà quel est le nombre de points qu'on va lui attribuer pour l'exercice de ses missions d'accueil. Il est bien évident que le comptable ne va jamais vérifier, je dis ça pour le plaisir, hein, ne va jamais vérifier que c'est bien cette personne-là qui est à l'accueil. On est bien d'accord. Prime et indemnité. Non, c'est pas des emplois fictifs. Régime indemnitaire. Vous savez que depuis, je ne m'en rappelle plus la date, mais il y avait tout un système de prix
filant
qui a été, un jour ou l'autre, on a dit d'accord, on va intégrer l'ensemble des équipes au profit des employés communaux. Donc depuis, on a décidé, il y a des textes qui régissent un régime indemnitaire. Ce régime indemnitaire, il est calqué sur les primes perçues par les fonctionnaires d'État. Donc, la première démarche que vous avez eu à faire lors de l'instauration d'un régime indemnitaire, c'est de décider d'appliquer à la collectivité les différentes primes votées au profit de l'État. C'était la première chose. Donc, vous avez fixé un régime indemnitaire, vous avez fixé les conditions dans lesquelles le régime indemnitaire pouvait varier en fonction de la manière de servir, de 1 à 8, de 1 à 12, de... Voilà, etc. Donc, vous avez une délibération globale et générale qui fixe les conditions du régime indemnitaire qui est fixé aux agents communaux. Et ensuite, quand vous payez effectivement ce régime indemnitaire, eh bien, vous avez un décompte liquidatif individuel pour l'agent, pour le montant qui lui est servi. Donc, il est payé multiplié par 3, multiplié par 4, divisé par 5, etc., etc. C'est vous qui le fixez individuellement, chaque fois que chaque année, vous réglez le régime indemnitaire. Alors, de plus en plus, dans les collectivités locales, il est payé soit mensuellement, soit trimestriellement, ça dépend des cas. Avec une liquidation globale, en fin d'année, ça peut aussi arriver. Juste une petite chose, il ne peut pas y avoir de prime sans texte. On est bien d'accord? Vous ne pouvez pas demain, et je l'ai vu encore récemment, chez moi on a payé des primes 250€ à 3 agents dans une petite collectivité. Et donc on vient de payer 3 fois les primes, donc le maire l'a dit. Mais ça date d'il y a 35 ans. J'ai dit, il faut me retrouver la délibération d'il y a 35 ans. Il faut d'abord l'expliquer à M. le préfet qui a dit, j'accepte pas la délibération. C'est pas légal, etc. Donc ça nous est passé au-dessus de la tête, on l'a pas vu. Et cela veut dire que vous ne pouvez affecter et verser à un agent qu'une prime qui existe au vu d'un texte. Donc vous avez toutes les possibilités de faire varier des primes qui sont à l'heure actuelle attribuées à vos agents pour leur donner, à titre de gratification et en fin d'année, une augmentation, une variation ou une prime.
Chez moi, à titre d'exemple, début décembre, un DGS m'appelle sur une grosse collectivité en disant voilà, le président il a décidé d'attribuer une indemnité, une prime exceptionnelle de fin d'année de 150€ à tout le monde. Et il a écrit
à chacun des employés. Comment on fait ? Ben, je dis, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Une prime de fin d'année, ça n'existe pas. Il faut trouver dans la réglementation une prime qui existe. Il faut, comme l'a dit Michel, prendre une décision décidant du principe de l'octroi de cette prime et faire un arrêté pour chacun, lui octroyer la prime. Donc après, alors après, on peut jouer sur les indemnités existantes. Si les gens ne sont pas au taquet de l'indemnité, prendre un arrêté exceptionnel pour le mot en question et augmenter l'indemnité. Mais voilà, il faut rester dans la légalité. Et ça, c'est pas de l'opportunité, c'est pas moi qui décide de pas attribuer une prime de 150 euros parce que ça ne plaît pas, mais c'est parce que les textes disent la prime sans texte. Donc retenez ça, la prime sans texte.
Délibération.
Et le préfet l'a vu, hein, donc il m'a gentiment envoyé la délibération en disant vous avez payé sans texte. Bon, je pense qu'il doit y avoir une délibération, mais qu'elle doit être très vieille. Mais elle existe toujours parce qu'il me dit ça fait chaque année on la paye. Donc voilà. Donc j'espère.
Très vieille, c'est meilleur.
Je suis couvert. Même chose, encore une fois, tous les mois, qu'est-ce qui peut varier ? Parce qu'il faut bien reconnaître que d'un mois sur l'autre, rares sont les salaires qui évoluent. Hein, bon, à part quand vous vieillissez, etc., etc., mais on touche régulièrement le salaire, vous voyez, sans trop de changements d'un mois sur l'autre, seulement vous pouvez faire des heures supplémentaires. Donc, encore une fois, il y a une délibération qui fixe, au départ, les emplois pouvant bénéficier d'heures supplémentaires. Et donc, chaque mois, si vous payez des heures supplémentaires, il nous faut un état liquidatif qui indique pour chaque personne le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et les dates à laquelle elles ont été faites. Alors, vous me direz, c'est marqué sur la feuille de paye. Ouais. Moi aussi, je suis surpris toujours parce que ce détail figure. La seule chose, c'est qu'en signant cet état, vous attestez d'une manière générale que les heures supplémentaires ont bien été faites et aux dates prévues. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de la feuille de paye pour justifier des heures supplémentaires. Il vous faut un état complémentaire qui permet de liquider très précisément au nom de chacun des agents concernés le montant des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées. Donc dans les plus grosses collectivités, je ne sais pas si dans les petites, il y a le problème des astreintes et des permanences. Pour parler temps qui court, je pense que tous les services techniques ont à tour de rôle un système d'astreintes. Là encore une fois, il y a une délibération qui a fixé quels étaient les emplois qui pouvaient faire de l'astreinte, hein, parce que bon, le chef du service de la compta ne voit pas très bien en quoi de neige il pourrait avoir des astreintes, hein, mais en tout cas, donc, fixer très précisément la liste des personnels qui peuvent avoir des astreintes, et puis liquider chaque mois le montant des astreintes dû à chacun des personnels qui a exercé, qui a été d'astreinte, voire de rétribuer leurs interventions effectives, parce qu'il y a à la fois l'astreinte et puis il y a également le travail effectif et l'intervention effective qui peut être rétribuée. Donc là, encore une fois, un état liquidatif. Chaque fois que la paye change, à quelque titre que ce soit, il y a un état liquidatif à fournir. En ce qui concerne les heures supplémentaires, ben c'est peut-être tous les mois, parce que des gens ont peut-être des heures supplémentaires tous les mois. En matière d'astreinte, plus dans les périodes où les astreintes sont légitimes, justifiées, et donnent lieu à des paiements relativement importants.
Tout à l'heure, on a parlé de contrôle hiérarchisé de la dépense. En matière de traitement, ne vous étonnez pas non plus si un jour la trésorerie vous demande une explication ou un justificatif sur tel point de la paye. La réponse, ça fait 6 mois ou ça fait 1 an qu'on le paye comme ça et vous n'avez rien dit, c'est fort possible. Hein, parce que on ne passe pas sur tous les bulletins de paye tous les mois. Hein, on fait du sondage, par thème, et Michel disait au mois d'octobre c'est le supplément familial de traitement, donc voilà, ça peut être autre chose avec du mois. Donc ça se peut qu'on vous demande un truc à un moment donné, alors que ça fait déjà un certain temps qu'on paye sans rien vous demander. C'est pas parce qu'on n'a pas bien fait avant qu'il ne faut pas bien faire après. On passe au marché public. S'il y a une question sur la
paye. J'avais une autre question à poser. Est-ce que j'ai été clair sur le principe ? Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est une délibération, une décision ou des états. C'est ça qui doit justifier systématiquement, tous les mois, les évolutions dans les faits, dans la paye. de questions sur le personnel. Je pense que c'est pas là que vous avez le plus de difficultés, ou qu'on a le plus de difficultés. Alors, les marchés publics maintenant. C'est un peu le gros du morceau. Force est de reconnaître maintenant qu'avec la réforme, et notamment la possibilité qui vous est offerte d'avoir recours au marché et à procédure adaptée, les conditions sont un peu plus faciles d'accès à la commande publique sous une forme plus simplifiée, pour bien connaître. Hein. Alors, n'oubliez pas une chose, je ne sais pas si vous l'avez, mais est-ce que certains d'entre vous ont des délégations pour passer les marchés publics?
En début de mandat, le conseil municipal vous a peut-être accordé effectivement cette faculté. Donc,
oui, c'est le maire de Comoy.
250.
Voilà. Donc, ce qu'on voulait vous faire dire, c'est ce qu'on voulait surtout retenir, c'est que si délégation est donnée, il faut en fixer le montant. Donc, il y a des 250 000 euros. Ça veut dire que jusqu'à 250 000 euros, ce maire peut passer les marchés, à charge pour lui, bien évidemment, d'en rendre compte au conseil.
Oui, voilà, c'est pas un blanc-seing hein, qui est donné. Hein. Donc, comme on le verra, le conseil municipal vous ouvre les crédits.
Pour simplifier les choses.
Tout à fait.
Est-ce que vous l'utilisez pour vous?
Non.
Voilà, ça aussi, donc, je pense aussi que sur le plan pratique, c'est important. Le fait de donner délégation ne donne pas, encore une fois, une liberté quasiment totale à l'élu. Donc, je vois dans des petites communes, il n'y a pas d'énorme de délégation pour la bonne et simple raison que lorsqu'on a des opérations d'investissement et des marchés à passer, il y a toujours un conseil municipal qui est proche et qui permet de gérer l'opération, de prendre la décision et de faire en sorte que tout le monde soit d'accord et de confier au maire le soin de gérer les marchés après coup. Ça va être clair hein, de ce côté-là. Mais ça peut être une facilité qui est offerte au maire. Et ça peut être aussi une souplesse d'exécution dans certains cas. Là, ça évite d'avoir le 15 août à réunir peut-être un conseil municipal qui n'est pas toujours présent. Alors donc, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a 30-40 000 euros à engager, il se faire le faire de sa propre initiative. C'est une bonne et saine gestion.
Donc demain, et à l'Axo, jeudi. Donc ça, je...
C'est ce que je disais. Clairement, la délégation, très précisément la fixer.
C'est peut-être un peu plus à la marge.
Subdélégation, je pense que c'est peut-être pas le cas. C'est plus peut-être dans les grosses collectivités locales où on peut avoir des subdélégations à certains des adjoints qui sont chargés de certaines activités. Alors, vous savez que la règle a changé. C'est pas plus mal, on en est arrivé quand même à une relative grande liberté en ce qui concerne les collectivités locales. Jusqu'à 15 000 euros, vous êtes désormais dispensé de toute procédure. Vous pouvez être dispensé de toute procédure. Et vous êtes dispensé de passer sous une forme écrite. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas mettre en concurrence. C'est votre problème. Je le redirai après, au-delà, entre 90 et 200, c'est la même chose. Ou entre 15 et 90, c'est la même chose. N'oubliez jamais une chose, le juge des comptes, si un jour met son nez dans les affaires des petites collectivités, je pense qu'un jour ou l'autre, il demandera à une collectivité, monsieur le maire, montrez-moi que vous avez mis en concurrence. Alors, ce n'est pas formalisé, vous n'avez pas passé des annonces dans la presse, etc. Mais il vous dira, ben, vous avez fait 15 000 euros de travaux, là, montrez-moi voir un peu ce que vous avez. Et ben voilà. Donc vous avez trois devis, vous classez ça bien gentiment dans un dossier, vous en avez choisi un, ben voilà, vous avez mis en concurrence. C'est l'essentiel. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que le fait de 15 000, 90 000, 200 000, etc., ça ne dispense jamais de la mise en concurrence.
C'est le mieux disant.
Ah, c'est le mieux disant. Oui.
Hein? N'oubliez jamais ça.
Oui, et gardez une trace de ça. Voilà. Ce n'est pas dans la liste des pièces justificatives. Donc on s'en dit, on vous dit en dessous de 15 000, dispense de forme écrite, mais, c'est surtout le cas de l'après 15 000, la mise en concurrence.
mais gardez une trace de votre mise en concurrence, parce que lui, le juge des comptes, il peut à un moment donné vous demander tiens, est-ce que vous avez bien fait votre mise en concurrence. Donc gardez les liens.
Absolument. L'application du mieux disant.
Alors, il y a une petite chose concernant justement le délai de conservation. Ça me permet simplement de faire un zoom sur une future session, donc sur l'archivage communal, donc qui effectivement, puisque vous avez dans le cadre des marchés publics un délai de conservation des données en cas de recours, donc effectivement les offres des candidats retenus et non retenus, combien de temps les garder, ces documents, tout ça vous sera bien sûr précisé ultérieurement. Mais concernant justement le fait que vous ayez en charge de l'argent public, le fait de mettre en concurrence vous assure finalement une bonne gestion des deniers publics. Vous assurez une gestion au bon père de famille. Imaginez par exemple pour votre propre budget, quand vous avez une dépense de 15 000 euros, vous ne traitez pas de gré à gré avec un prestataire. Vous sollicitez plusieurs entreprises, notamment pour avoir une offre non pas la moins disante, mais la mieux disante. Et ce n'est pas que sur le critère prix qu'on se base, c'est aussi sur le critère délai, peu importe. Hein, donc tout ce qui peut être associé effectivement à l'offre. Donc méfiez-vous, voilà, quand vous sollicitez une entreprise ou des entreprises pour obtenir une prestation, dans un petit courrier d'accompagnement, mettez effectivement que la proposition sera analysée au vu de différents critères. Comme ça, vous n'êtes pas lié que sur le critère prix, qui est un très très mauvais critère. Très très mauvais critère, et surtout dans un contexte là où économiquement parlant c'est tendu, ça veut dire qu'on risque d'avoir des offres qui finalement financièrement sont bien en deçà de la réalité du marché. Uniquement parce qu'on sait que ça sera un moyen pour vous de contractualiser avec l'entreprise. Et après, je vous passe les déboires que vous risquez d'avoir.
Je plaide effectivement que nous sommes coupables sur le fait que c'est une très grande liberté qui nous est offerte. Inimaginable. Et que, bien entendu, on n'a pas la maîtrise de l'ensemble des connaissances nécessaires, notamment des plus petites communes. Reconnaissons-le, quand une collectivité de cette taille qui est étoffée, etc., il n'y a pas de problème. Chaque conseiller peut demander au technicien qui est sur place la validité du choix que la commission a pu opérer. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est une grande latitude qui nous est laissée, parce que les entreprises le font également, c'est-à-dire qu'elles profitent de cette particularité pour faire le prix qu'elle veut à la tête du client. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. On n'aime pas le dire, il faut que ça soit dit.
En ce qui concerne la conservation, il faut savoir qu'en matière de pièces, je vous disais, la Chambre régionale des comptes vient vous voir, vous demande, il faut savoir que nous sommes quittes le jour où nous avons obtenu le quitus sur l'année en cause. Alors je ne sais plus chez moi où est-ce que j'ai obtenu le quitus. Ça doit être 2007, 2009, sur certaines collectivités. Toutes les opérations qui ont été faites avant 2009, vous pouvez à la limite détruire les pièces, puisque jamais plus quelqu'un ne pourra venir vous chercher sur ce point. Puisque,
archiver,
voilà. Mais archiver, et si ça disparaît, je veux dire, c'est pas dramatique. Mais voilà. Le comptable a obtenu un quitus jusqu'en... Alors vous êtes informé, hein. Je crois que la Cour des comptes, lorsqu'elle, ou la Chambre régionale, lorsqu'elle donne des quitus, elle vous en envoie une copie. Donc vous savez que votre comptable, eh bien jusqu'en 2007, sur la commune de Longwy, il a été totalement déchargé, donc il n'y a pas de problème. Donc tout ce qui est avant, théoriquement, on ne pourra jamais plus remettre en cause ce qui a été
Au niveau comptable, puis on fermera la parenthèse, c'est simplement, je vous donne un exemple, dans le cadre d'un marché de travaux, avec des malfaçons qui avaient été faites, et finalement on a été rechercher la garantie trentenaire de l'entreprise. Ça veut dire qu'il fallait effectivement avoir conservé, dans le cadre d'une réhabilitation ou alors d'une construction quelconque, toutes les pièces du marché pour pouvoir justement montrer que l'entreprise avait exécuté justement toutes les prestations contrairement aux dispositions du cahier des charges, que ça s'était pas vu, que ça s'était vu par la suite et que le bâtiment avait finalement des fissures, des infiltrations qui le rendaient impropre à sa destination. Non mais c'est du vrai.
Ah non mais je crois pas que vous me racontiez des histoires. Bien, ensuite... Donc toujours sur les seuils et procédures, les marchés à procédures adaptées, donc c'est désormais, je dis presque quasiment la règle dans ce domaine. Donc pour les marchés de fournitures et services,
inférieurs à 200 000 euros pour les travaux inférieurs à 5 millions d'euros. Il est bien évident que ça n'empêche pas une mise en concurrence, j'allais dire un peu formalisée. Je sors ce matin d'un appel d'offres, il y avait 100 000 euros dans une petite commune et on avait bel et bien organisé une mise en concurrence bien formalisée. Hein, soyons clairs, il y avait 7 lots, on avait 70 entreprises et on a fait comme si c'était un appel d'offres, et on vous le redira, ça avait la couleur, ça avait le goût, mais ça n'était pas un appel d'offres. On est bien d'accord.
Alors, au niveau de la procédure, c'est vrai que beaucoup de collectivités utilisent les procédures existantes du code, et notamment la procédure d'appel d'offres. Cependant, l'avantage phénoménal de la DEMAPA, c'est la négociation. Ça veut dire que vous avez la possibilité soit de vous entretenir avec une entreprise, soit d'envoyer justement un courrier pour pouvoir obtenir un prix meilleur, un délai plus intéressant. Donc c'est justement cette possibilité de négociation qui est offerte dans les MAPA, mais qui n'est pas offerte dans le cadre d'une procédure appel d'offres.
Donc en ce qui concerne les procédures appel d'offres, eh bien, on est obligatoirement dans un appel d'offres au-dessus de 200 000 euros en matière de fourniture et de services et au-dessus de 5 millions d'euros en matière de travaux. Pour les autres procédures, je vous les cite, le dialogue compétitif, les procédures négociées, tout ça. C'est pour l'anecdote, le jour où vous avez besoin de ce type, ben ça s'étudie en liaison avec vos services, avec l'association des maires et avec votre comptable. C'est évident. Alors, seuil de publicité maintenant. Dispenser de publicité, ça ne vous empêche pas d'écrire à trois entreprises pour qu'ils vous fassent connaître leur avis. Entre 10 à 90 000, choix défini par l'acheteur. Encore une fois, vous êtes dans ce domaine libre.
Alors, la jurisprudence dit qu'il faut réaliser une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective.
Voilà.
Tout ça pour dire que c'est à vous, effectivement, d'avoir une publicité adaptée, de telle sorte qu'il y ait une réelle mise en concurrence qui soit faite.
90 à 200 000, obligatoirement, un journal d'annonce légale. On va retenir ça. Ici, c'est le Républicain Grand, ici. Hein.
Oui.
Ah,
oui.
Je me souviens, oui, c'était pas l'Est républicain.
Allez, bah, il s'arrête.
Alors sachez que tous les ans, il y a le préfet qui fixe, par arrêté, la liste des journaux habilités à recevoir des annonces légales. Hein, donc sachez que la liste est quand même longue, il n'y a pas qu'un seul journal.
Hein.
Bon, le bulletin officiel des annonces des marchés publics, bon ça c'est la formule. Le profil acheteur.
Alors, c'est la plateforme
sur laquelle vous faites passer.
Voilà. Ou alors, si vous avez, vous, un propre prestataire, donc c'est finalement une page qui est dédiée à la commune, là où on retrouve les annonces des consultations que passe la commune. Je vous ai laissé une petite plaquette sur vos chaises, là où vous retrouvez justement les différents seuils avec vos obligations en matière de publicité. Hein. Donc, sachez que la seule différence entre le BOMP, Bulletin officiel des annonces des marchés publics, et un journal d'annonces légales, c'est la TVA. Ça veut dire que vous payez 19,6 hein, pour vos insertions dans votre canard préféré, et tandis qu'au BOMP, vous n'avez pas de TVA.
Vous pensez que le canard est quand même d'avoir le.
Oui, il serait préféré le canard.
Le plus de candidats et plus de réponses, hein, je crois que c'est toujours ça. Hein.
C'est vrai.
Donc, il faut adapter la publicité à vos besoins. Hein. Je ne suis jamais. On n'a jamais fait d'enquête pour savoir comment les gens avaient. Où les gens avaient été chercher l'appel d'offres. Sur quel type de support est-ce qu'ils avaient eu connaissance de l'appel d'offres. Ce serait intéressant de voir si c'est sur le bulletin officiel des annonces des marchés publics ou si c'est grâce au l'Est républicain ou au Républicain Lorrain, c'est-à-dire aux journaux oui, d'annonces légales ou aux tablettes Lorraine, par exemple.
Le moniteur de travaux publics et du
Le moniteur, par exemple, également.
Moi, j'invite, hein, si vous voulez, vous avez un lien avec les entrepreneurs locaux, c'est à leur expliquer justement comment. Ils peuvent, puisqu'on est dans le cadre de la dématérialisation, donc c'est déjà leur apprendre à utiliser l'outil Internet pour retrouver toutes les consultations, soit que vous faites, ou alors que dans le cadre de la communauté de communes, ou alors plus globalement dans le cadre de l'agglomération, de l'arrondissement, où ils peuvent retrouver toutes les consultations, donc qui sont en lien avec leur activité. C'est très simple, et c'est vrai que ça leur permet simplement, c'est un petit outil qui leur permet de savoir, par exemple, quand vous faites une consultation, eh bien qu'ils peuvent aller la rechercher régulièrement ou facilement.
Ça, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment
se développer. Maintenant, il y a obligation à partir de 90 000 de mettre une annonce
sur un support dématérialisé.
De plus en plus, nous, particuliers, quand on cherche quelque chose, le premier réflexe qu'on commence à avoir, c'est d'aller voir sur Internet avant d'aller voir ailleurs. Donc, les annonces légales sur le Républicain, Lorrain ou l'Est Républicain, je ne sais pas, il y en aura peut-être toujours, mais ce sera certainement plus et très vite la première source de recherche pour les entreprises qui cherchent du boulot. Bon, je pense que l'Internet va manger plus.
Et sachant que vous êtes aussi en charge d'une gestion d'un budget, financièrement parlant, on va dire que le Républicain Lorrain, pour ne pas le citer, mais je suis navré, a une aura qui est quand même relativement faible. Ça veut dire que son champ d'action est quand même régional. L'Est Républicain a une aura un peu plus large. Mais c'est vrai que c'est une vraie étude, hein, savoir qui regarde les documents. Donc, mais c'est le Républicain Lorrain, c'est un journal régional.
Oui.
Donc voilà, après il y a le journal de la semaine, le mois, faut faire le listing. Mais on passe.
Bon, on est toujours à peu près au même niveau, hein. Entre 90 et 5 millions, oui, bien sûr. Journal d'annonce légale, au-delà de 5 millions, vous avez une obligation de publicité dans un journal européen.
Oui, là on est en marché de travaux.
C'est en marché
prestation.
Voilà.
Alors le JOE est gratuit, sachez-le. Hein. Donc c'est pas un support qui va vous coûter cher.
Alors méfiez-vous quand même en ce qui concerne les travaux de fourniture, notamment ce qui se passe, c'est vous avez par exemple des travaux pour le nettoyage. Alors quand on a une mairie un peu importante, on a des travaux de nettoyage, on fait la mairie, on fait la salle des fêtes, on fait le gymnase, etc. Et je sais qu'une collectivité, quand on prie sur 3 ans ou 4 ans, on a peut arriver à 200 000 euros. Mais le réflexe, effectivement, c'est pas d'aller se mettre sur un journal européen. Hein, parce qu'on se pose quand même la question un peu de savoir ce que les Polonais ou les Bulgares vont venir faire en France pour nettoyer le gymnase de Longwy, etc. Mais je sais qu'une collectivité a vu son marché, en tout cas, cassé parce qu'elle n'avait pas fait la publicité dans le journal européen.
Voilà. Je me permets simplement de faire un zoom. Comment vous savez que vous êtes à ces seuils? C'est très simple. On est sur une base estimée. Ça veut dire que vous estimez, par exemple, quelle est la durée de votre marché? Durée d'un an, très bien. J'ai un marché de prestation de services, nettoyage de locaux, très bien. Et vous estimez, globalement, au vu des dernières consultations que vous avez pu avoir, d'une revalorisation du SMIC, et ainsi de suite, que ça va vous coûter 91 000 euros hors taxes. Donc là, vous savez effectivement quel type de publicité vous devez faire. Maintenant, vous passez le même marché sur 4 ans. Donc on est dans le cadre d'un marché de services. On était à 90 000 euros hors taxes sur une année. 90 000 multiplié par 4, je dépasse les seuils européens. Donc là, j'ai effectivement une publicité à faire, donc dans un JAL, au journal officiel donc, de l'Union européenne, plus sur votre profil d'acheteur. Hein, donc la computation des seuils, c'est sur la durée du marché par rapport à la valeur estimée.
Alors, le contrôle de légalité, je pense que vous le savez, moins de 200 000 euros, pas de contrôle de légalité sur l'ensemble des marchés que vous passez. Au-delà de 200 000 euros, contrôle de légalité, donc transmission à la préfecture de l'ensemble des pièces justificatives de la procédure de passation des marchés. Chose que le comptable du Trésor ne vous demande plus. Vous n'avez pas à vous justifier des conditions dans lesquelles vous avez attribué les marchés. En général, si vous nous avez invités, on sait dans quelles conditions l'attribution s'est faite. Hein. C'est bien évident. Mais attention, donc, à plus de 200 000 euros, il faut être extrêmement rigoureux, parce que la préfecture est extrêmement rigoureuse sur l'analyse des conditions dans lesquelles les marchés ont été passés.
Il y a une circulaire là, qui est parue début janvier qui fixe plusieurs priorités dans le cadre du contrôle de légalité, et les marchés publics appartiennent justement à ces priorités-là. Donc c'est pour ça que ce que dit M. Tosi, c'est d'autant plus vrai, il faut être extrêmement vigilant.
C'est souvent un des conseils que je donne dans les « attention si vous dépassez 200 000 euros », ouais, d'une rigueur absolue sur les documents que vous allez envoyer à la préfecture au contrôle de légalité. Alors, je ne dis pas qu'ils les épluchent à tous les coups, mais souvent ils les épluchent, et les observations, alors il y a des observations de pure forme, et puis il y a des observations sérieuses derrière. Donc soyez très rigoureux, vous soyez, faites en sorte que les maîtres d'œuvre que vous embauchez soient très rigoureux, mais ils sont un peu maintenant sensibilisés au fait qu'à plus de 200 000 euros, ben, il faut être rigoureux sur les pièces à jouer. Alors effectivement, tout ce qui est avenant, ben, c'est lié à la passation principale. Si le marché n'était pas transmissible, il n'est pas transmissible, l'avenant. En revanche, si le marché était transmissible, l'avenant sera transmissible également. Pas de problème. Ce n'est pas le montant de l'avenant qui fait. C'est le montant global de l'opération qui fait.
Juste pour apporter une précision, un avenant n'a pas forcément une incidence financière. Un avenant, c'est une modification des prestations qui sont prévues au contrat. Donc ça veut dire qu'effectivement il peut y avoir des avenants en plus liés à des prestations complémentaires ou un avenant en moins si ce qui avait été prévu n'a pas été réalisé, mais vous devez aussi établir des avenants si vous avez effectivement des prestations qui se compensent, c'est-à-dire qu'on avait prévu de planter, je ne sais pas moi, des arbustes de telle sorte, mais ce n'est pas ce type d'arbuste-là, c'est un autre type d'arbuste. Il est quand même obligatoire pour vous de mentionner cette modification-là. Par la suite, s'il y a une malfaçon, si on est obligé de rechercher la responsabilité de l'entreprise, on ne comprendra pas pourquoi, dans le contrat initial, il était prévu tel type d'arbuste et pas tel autre, ou tel type de planche et pas tel autre, tel type de matériau plutôt que tel autre. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être très très vigilant. Un avenant peut être pris sans forcément qu'il y ait une incidence financière derrière.
Sur le caractère exécutoire, une application classique, tous les actes et délibérations dispensés de l'obligation de transmission, ben, sont exécutoires de plein droit. Hein, je veux dire, le marché que vous signez à 100 000 euros, ben, l'hypothèse où c'est un marché unique, ben, il est exécutoire de plein droit. Puisqu'il n'est pas transmissible à la préfecture, et donc il n'a pas à obtenir le blanc seing. Et vous n'avez pas à justifier au comptable sur le document du fait que vous avez transmis ce document à la préfecture. Ça n'importe rien. Le marché est exécutoire. Bon, laissons tomber pour l'instant la dématérialisation. Je pense qu'on se posera la question du caractère exécutoire, de la justification du caractère exécutoire, lorsque la dématérialisation sera devenue la règle et la norme. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors bon, sur les modalités de certification, je vous rappelle d'un acte exécutoire, soit vous portez simplement une mention sur l'acte en disant transmis en préfecture le temps que vous signez, soit bien évidemment l'acte comporte le visa de la préfecture, le trou d'otage, hein, etc. Donc vous avez ces deux possibilités-là, mais n'oubliez pas, ce n'est pas simplement le document visé par la presse qui est exécutoire. Vous pouvez, vous, en tant qu'élu, attester du caractère exécutoire en disant voilà, c'est exécutoire parce qu'il a été transmis et publié à tel point. Ça suffit. Vous engagez, vous, votre naturelle responsabilité dans ce domaine.
Et vous n'avez pas besoin, disons, qu'on vous redonne une vision une fois que ça revient de la préfecture.
Ah, pas du tout, non. Pas du tout, non. Si vous avez attesté que la délibération est exécutoire, pour nous, elle est exécutoire. Après, quand elle arrive avec le visa de la presse, ça ne nous apporte rien.
Donc, on attend une
preuve. Non, c'est pas du tout. Si vous avez transmis la première, attesté du caractère exécutoire.
Normalement, le problème ne doit pas se poser puisque vous délibérez, par exemple, vous autorisez le maire à signer un marché, donc vous prenez la délibération, par exemple, le 1er janvier, hypothèse d'école, le contrat, la délibération, vous l'envoyez en préfecture, elle vous revient, là je suis dans l'hypothèse, effectivement, où on a un cachet. Après, vous n'avez pas forcément la demande de paiement tout de suite de l'entreprise. Donc c'est vrai que vous signez déjà le marché, vous le notifiez à l'entreprise, l'entreprise exécute ses travaux. Donc c'est simplement, c'est loin après qu'on a effectivement la demande de paiement et la transmission au comptable. Ça veut dire que normalement, le caractère au niveau de la certification exécutoire, vous devriez avoir la possibilité d'avoir le cachet de la préfecture et transmettre le document.
Oui, là, dans le cadre du marché public, oui, on est dans ce schéma-là, mais le caractère exécutoire, ça peut être sur d'autres délibérations. Une décision de
l'Arcella,
par exemple, bon, voilà, vous prenez en urgence une DM parce qu'on en a besoin, vous attestez que vous l'avez bien transmis à la sous-préfecture à telle date.
Elle est exécutoire, on la prend en compte. Ah, bah oui, non, là, il n'y a pas de problème. Non, donc, il n'y a pas de difficulté. Donc, les pièces justificatives, encore une fois, vous les trouvez toujours dans l'instruction et dans l'annexe au décret de 2007 qui fixe là aussi l'ensemble des pièces justificatives pour les marchés publics. Hein. Alors, oula, ça c'était la formulation, on n'avait jamais compris ce qu'avait voulu dire Daniel.
C'est un de nos collègues qui a fait le document. Particulièrement celle à faire avec l'aide financière. Vous passez, on va réfléchir parce que là, une évaluation des pièces justifiées convient de transmettre et ne s'appliquant qu'au marché qui s'y réfère, n'en cite pas moins les dispositions contraintes particulières, c'est la caractère.
Donc, ce qui se passe, c'est que tout est cadré par les cahiers des clauses administratives générales, donc ils sont nombreux. Vous avez pour les prestations intellectuelles, donc dans le cadre des marchés de maîtrise d'œuvre, pour les fournitures courantes et services, pour les marchés de travaux, il y a toute une liste de cahiers de clauses administratives générales, et quand vous les référencez dans vos marchés, ceci finalement s'applique. Et c'est vrai que vous avez tout un tas de dispositions, et notamment dans le cadre du CCAG Travaux, hein, pour prendre le plus simple, qui posent problème au quotidien, et c'est vrai qu'il faut éventuellement bien les étudier avant de les mettre en référence pour prévoir des dérogations.
Mais c'était plutôt une mise en garde contre une ligne notamment dans vos marchés en procédure adaptée, puisque là c'est vous qui, on en parlera tout à l'heure, qui fixait un petit peu la règle du marché, faire attention à une ligne faisant référence au CCAG de travaux, par exemple, qui fait bien comme ça dans le texte, mais qui derrière, à partir du moment où vous avez signé le CCAG, il s'applique. Et le CCAG, il est comme ça, hein, avec, comme disait M. Rizzo, des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour vous.
Je vous donne simplement les pénalités de retard, le taux des pénalités de retard. Il faut savoir simplement comment est élaboré un CCAG. Vous avez tous les représentants des différents milieux qui sont autour d'une table. Là, en l'espèce, le taux des pénalités de retard, si vous ne dérogez pas au CCAG travaux, il est ridicule pour l'entreprise. Donc, si vous voulez que ça soit très contraignant et que vous soyez sûr, par exemple, dans le cadre d'un marché de rénovation de fenêtres, que pour la rentrée scolaire, il y ait des nouvelles fenêtres, il faut absolument qu'il y ait une dérogation au cahier des clauses administratives générales pour qu'on ait une pénalité substantielle qui fasse que l'entreprise réalise les travaux et qu'on ait, par exemple, 100 ou 150 euros par jour de pénalité.
Alors, les paiements au marché sur simple facture. Moins de 15 000 euros, on paye sur simple facture. La question se trouve posée au-delà, entre 15 et 90 000 euros. Alors, on a beaucoup réfléchi à la question et on s'est un petit peu inspiré de ce qui vous arrive, entre guillemets, ce que vous vivez au quotidien. Il est extrêmement fréquent que certains élus viennent nous voir en disant « Ah ben, j'ai fait faire des travaux pour environ 45 000 euros. Avant, on pouvait payer sur simple facture, on payait sur simple facture. Seulement, ils voudraient un acompte. » « Ah ben oui, on dit, c'est bien, mais vous avez un document qui prévoit l'acompte ?»« Ah non, il n'y a pas de document qui prévoit l'acompte. » Bon. Ça, on peut toujours régulariser à posteriori, mais bon. Deuxième élément, il devait terminer pour le 2 septembre, les fenêtres ne sont pas posées, l'école ne va pas pouvoir ouvrir, est-ce que j'ai un moyen de contraindre? Je dis, vous avez prévu quelque chose? C'est marqué quelque part? Non. Il est un peu embêtant. Deuxième élément, il a posé les travaux, on ouvre les fenêtres, il y en a une sur deux qui n'ouvre pas. Si on doit faire refaire, si on doit, etc. On n'a pas pris. Pourquoi vous n'avez pas pris de retenue de garantie? Je dis parce que je n'ai pas de document qui prévoit que je prenne une retenue de garantie. Etc., etc., etc. Donc ce que l'on peut maintenant désormais vous conseiller, et quand vous travaillez au-delà de 15 000 euros, et même avant 15 000 euros, c'est de tenter de mettre en place un cahier des clauses administratives qui vous est personnel. À vous, dans lequel, avec l'entreprise, vous fixez les conditions dans lesquelles il va exécuter ses travaux. Et vous lui dites tout simplement, tout bêtement, vous aurez droit à des acomptes.
Oui.
Quand vous aurez commandé vos fenêtres, on vous versera, je ne sais pas si les travaux sont de 40 000 euros, vous aurez droit à 20 000 euros. Vous le fixez très clairement. Mais en échange de ça, vous aurez une retenue de garantie de 5%, vous ne l'autorisez pas à autre chose, pas de caution bancaire, etc. Vous dites, j'obtiens 5% sur le montant de vos acomptes, vous le fixez dans un document, puis vous lui dites, voilà, il faut que ce soit fait pour le 2 septembre, et si vous dépassez, moi je vous mettrai 150 euros de pénalité pour chaque jour dépassé, parce que je veux que ce soit prêt, pour... voilà, etc., etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce document, rien ne vous empêche d'établir ce document en liaison avec l'entreprise, qui a un intérêt quand elle veut des acomptes. Si vous n'avez pas de document, le comptable n'est pas censé payer des acomptes, alors qu'aucun document ne l'autorise à payer des acomptes. Donc on paiera sur simple facture les 15 000 euros à la fin. S'il veut 5 000 euros d'avance, eh bien, il ne les aura pas.
Oui, avance et acompte.
Oui, non mais je parle d'acompte. Hein. Ne parlons pas d'avance, on n'est pas dans le cadre d'un marché, mais c'est un acompte. Il veut un acompte, parfait, mais il faut un document qui le prévoit. Et vous pouvez, dans ce domaine, vous garantir un petit peu contre tous les inconvénients d'entreprises qui travaillent un peu, qui pourraient, de temps à autre, travailler un peu par-dessus la jambe, et qui, une fois que les travaux sont terminés, et comme vous avez dit tout à l'heure, qui sont payés, ben c'est terminé pour vous. La seule solution, c'est d'aller chercher un huissier, etc., d'entrer dans du contentieux, et autrement, vous n'avez plus aucun moyen de pression sur lui. Il est moral, le moyen de pression. Ça ne rapporte pas grand-chose et ça ne permet pas de fermer les fenêtres. On est bien d'accord.
Alors, cette position-là, elle est confirmée hein, par l'article 11 du...
Ils n'ont pas de mic. Allô, allô.
Oui, ils n'ont pas de mic. Par l'article 11 du Code des marchés, hein, qui dit que les marchés égaux ou supérieurs à 15 000 euros sont passés sous forme écrite. Donc, on n'a a priori pas le choix au-dessus de 15 000 euros. Alors, l'association des maires a déjà travaillé sur une proposition qu'on va vous faire, qu'on mettra en ligne, je pense, sur le site de l'association des maires, il faut qu'on regarde un peu ensemble. Ce serait en fait un acte d'engagement qui vaut en même temps cahier des clauses administratives particulières. Ça tient sur deux pages, et c'est vous, par cet intermédiaire-là, qui fixez éventuellement en relation avec l'entreprise la règle du jeu de votre marché. Ça simplifiera bien les choses.
Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous prenez ce qui vous intéresse dans la tête.
Et puis, petit point aussi d'importance, c'est que lorsque vous n'avez pas de contrat écrit, vous allez passer votre marché au vu d'un devis, par exemple, simplement. Dans le devis, vous allez avoir quoi comme règle ? Les conditions de votre fournisseur ou les conditions de votre entrepreneur, et pas les vôtres. Et parfois, ce sera plutôt à votre désavantage à vous et vous n'aurez aucune garantie. Donc, vaut mieux formaliser les choses. C'est pas sorcier et ça peut rendre bien des services.
C'est une manière de sécuriser simplement votre commande. Vous en aurez peut-être jamais besoin. Vous tomberez peut-être toujours sur des entreprises qui travaillent correctement. Quand vous les appelez, elles viennent remettre en état, etc. Mais il se trouve qu'on entend de plus en plus des petits élus. C'est pas péjoratif.
Ça n'existe pas.
C'est les élus des petites communes qui se plaignent du peu de moyens de pression qu'elles ont sur des entreprises lorsqu'il y a certaines malfaçons. Et je pense que c'est une des solutions pour gérer au mieux, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais pour gérer au mieux les relations que vous pouvez avoir avec un fournisseur qui fait une prestation de 15-20 000 euros. Dans certaines de vos communes, 15 000 euros, c'est quand même pas rien. Je pense, il ne faut jamais oublier ça. Nous, on fréquente des communes où 5 000 euros, c'est presque rien. Dans certaines petites communes, 5 000 euros, c'est quelque chose d'important. Il ne faut jamais oublier, c'est toujours notre commune. Voilà.
Toujours une question.
Allez-y.
Dans le cas que nous, on a passé un marché par un maître d'œuvre, et il y a plusieurs lots, et justement dans un lot, on a déjà eu une entreprise qui nous a fait un travail, je dirais.
Dégueulasse, il pleut, faut le dire. Hein.
Pour avoir et que ce, malgré la notation du maître d'œuvre en faisant des différents critères, ben, il arrive premier.
C'est dans un nouvel appel d'offres.
Oui. Et alors, quel moyen qu'on a, nous, de communes, de ne pas le prendre?
Alors, il semblerait, je mets ça au conditionnel, que si elle a déjà travaillé pour vous, vous êtes le seul à pouvoir l'éliminer. Okay. Mais si la première fois qu'elle a salopé le boulot, elle n'a pas travaillé pour vous, c'est-à-dire qu'elle a travaillé dans la commune.
Il a travaillé pour nous.
Alors, il y a quand même
vous
des.
Vous auriez la possibilité de l'éliminer à ce motif-là, mais il faut être prudent.
Oui, alors, on a dit, parce qu'on nous a dit, maintenant il peut être bon.
Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il faut regarder si. Il faut simplement regarder si l'entreprise est la même que celle qui a exécuté les travaux à l'époque, et là où il y avait effectivement des malfaçons. Ça veut dire que vous, il faut qu'il y ait une trace de toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer avec cette entreprise, des mises en demeure, des recommandés lui demandant d'exécuter les travaux et que finalement vos recommandés sont restés vains. Donc il faut montrer toutes les difficultés que vous avez pu avoir avec l'entreprise. L'entreprise soumissionne à votre appel d'offres, il faut regarder si elle ne s'est pas associée avec une autre structure, si c'est toujours la même structure, avec les mêmes références, les mêmes qualifications. Quel est le laps de temps qui s'est passé entre les difficultés que vous avez pu rencontrer et la date justement de la nouvelle consultation, pour savoir si vous pouvez justifier l'éviction de cette structure. Il y a une jurisprudence de 2009, région Lorraine, donc sur le sujet, là où on montre effectivement qu'il faut y aller avec vraiment le maximum de précautions, parce qu'on ne peut pas écarter une entreprise comme ça. Mais après...
Quel est le montant du lot? Il est de combien le lot? Ah, quand même.
Et qu'est-ce qui fait que l'entreprise est en première place, le prix?
Non, il y a eu le prix et puis. Oui, je crois que c'est le prix. Mais...
Alors, est-ce que son offre n'est pas normalement basse? Parce que vous savez, il y a toujours moyen de cadrer.
C'est le maître d'œuvre avec les différents critères qui l'a foutu.
Il faut voir le temps. La chose à faire, c'est regarder par rapport au bord de route prix. Hein, je suis désolé, mais c'est un vrai travail de fourmi. C'est regarder les différents postes qu'a proposé l'entreprise, pour quelles raisons il est moins cher, qu'il justifie effectivement sur les différents postes la raison qui justifie le prix moindre, que vous puissiez trouver une raison, si ce n'est pas les difficultés que vous avez pu rencontrer avant, c'est pour le fait que le prix soit normalement bas.
On a joué quand même sur la présentation du dossier, sur les délais qu'il avait annoncés. On a essayé de jouer là-dessus et on arrive à une note. En trichant sur la notation, je veux dire...
C'est pas que vous n'avez pas triché, vous avez simplement renoté.
Voilà, on a noté sur 2-3 points pour essayer d'éliminer.
Mais parce que l'offre à normalement basse, c'est pas facile non plus.
Ah ben ça, on l'a fait à plusieurs reprises.
Dans des grosses collectivités, c'est possible. Dans des plus grosses,
Si l'entreprise n'est pas capable de vous justifier que sur tel ou tel poste, là où il y a vraiment une différence par rapport aux autres, pourquoi elle est plus basse? Qu'est-ce qui justifie, hein? Tout le monde est assujetti au même prix, au même coût. Est-ce qu'il n'y a pas justement une volonté de sa part de minimiser certains postes pour obtenir le marché? Je suis désolé, le contexte économique est quand même très délicat. Donc les entreprises font tout pour récupérer les marchés. Je ne vais pas prendre l'exemple d'une grosse société chargée de voirie qui, pour la commune pour laquelle je travaillais, a mis des postes sur le laitier qui étaient bien en deçà du prix réel du marché, dans le but d'avoir le marché. Mais ça, vous ne le voyez pas, vous, sur la pluralité des différents prix, qu'il y avait vraiment un souci. On l'a su par la suite.
Il y a un peu une sympathie entre le maîtrise d'œuvre et le courage pour accepter pas mal de choses.
Les maîtres d'œuvre, ils servent à quoi? Vous ne voyez pas que ces gens-là, il faut pas bien qu'on les contrôle un peu. Parce que moi, j'ai l'impression que dans les communes, on se demande des fois, parce qu'ils acceptent tout et la commune n'est qu'à payer.
Le fond du problème avec les maîtres d'œuvre, c'est un peu leur capacité, un, à gérer, on le note, hein, les chantiers, c'est-à-dire à gérer les entreprises, et parfois derrière un peu le retard sur le plan administratif. C'est vrai. C'est vrai.
Mais on l'a rendu complexe, on devrait le rendre plus convivial quand même pour les collectivités. Bientôt, il faudra un bac plus 5 pour être derrière une mairie.
Ah, tout à fait.
Alors, attendez.
Il est évident qu'une mairie qui a un service technique digne de ce nom est avantagée dans le suivi d'un chantier, dans le suivi d'un dossier. Ça, c'est évident. Ou alors, il faut que l'élu soit un spécialiste
de la construction pour être sur le chantier tous les jours et suivre les entreprises à la trace, quoi, c'est certain. Hein.
C'est bien sûr en carré, parce qu'il serait sur le chantier tous les jours. Hein. Parce que justement, le maître d'œuvre, il vient une fois par semaine en rayon de chantier. Mmh. Et bien que bien souvent, qu'on fait, qu'on demande la recherche du maître d'œuvre et qu'on leur demande des visites à culture, sans jamais l'appareil, ils viennent à suivre les deux premières semaines.
Mais après, ça devient un couple, ne l'oubliez pas. Hein. L'expérience fait que si la personne veut du travail, elle est obligée de passer par le maître d'œuvre, et le maître d'œuvre, c'est la même chose.
Ça, c'est dans votre contrat.
Du maître d'œuvre, ouais. Justement, on le spécifie bien qu'ils auront des visites à faire régulièrement.
Oui, à la demande
dans le sens là, mais après.
Parce que ce que vous faites, c'est vous libellez de la manière suivante. Vous dites à la demande du maître d'ouvrage, des visites impromptues seront réalisées sans respect, je ne sais pas, de ces dispositions. Le maître d'œuvre sera soumis à une pénalité de. Et puis, il faut savoir aussi contraindre. Hein, c'est vous finalement qui tenez les ficelles.
Le mandat, c'est nous qui le faisons. Il faut fixer les règles dès le départ. Si vous voyez que vous êtes très gentil, comme d'habitude, hein, on est des élus, ben, ils ne vont pas commencer à taper dessus. On a ces réflexes, on donne normalement un but de travail, on a une économie qui marche à cause de cela, et en ce moment on regarde beaucoup, on arrache les affaires pour pas grand chose, et quand vous allez derrière, c'est trois architectes qu'il faut. On abuse des collectivités locales.
On a abusé, on abuse.
Et on abuse encore, bien sûr, tous les jours. On en parle parce qu'on sait ce qui se passe.
Je vous propose de continuer.
Oui, allez-y. Donc voilà les mentions qui doivent figurer sur, on va dire, une facture, ou en tout cas un marché public.
C'est sûr.
Pour chacune des prestations, donc le montant de la valeur ajoutée, les remises, le numéro SIRET, etc., etc. C'est ce qui figure généralement sur les factures que vous fournissent les entreprises. Et c'est un moyen de rappeler très précisément quelles sont les informations qui doivent figurer sur les factures qui servent de pièce justificative à la dépense.
Je parlais tout à l'heure de la circulaire justement que les préfets ont reçue. Dans les marchés à procédure adaptée, il y avait quelque chose justement qui était souligné, c'était les marchés de maîtrise d'œuvre. Donc dans les priorités du préfet, dans son contrôle, vous avez marché à procédure adaptée et surtout dans les marchés à procédure adaptée, les marchés de maîtrise d'œuvre. Et méfiez-vous toujours quand vous arrivez, vous retenez une équipe de maîtrise d'œuvre et qu'on vous remet un acte d'engagement, c'est le maître d'œuvre qui vous remet lui-même ses propres pièces. On va prendre un exemple tragique, mais la présidente a retenu une équipe de maîtrise d'œuvre, on lui a présenté un dossier qu'elle a validé, et le dossier n'est pas vraiment très satisfaisant pour la commune. Et notamment en cas de résiliation, vous avez plusieurs missions dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre, et on a des pénalités qui vont jusqu'à 15%, des indemnités de résiliation, qui vont jusqu'à 15%, sachant que c'est de 5%, par exemple, dans les cahiers des clauses administratives générales particulières. Donc, méfiez-vous toujours quand on vous présente un dossier, mieux vaut que le dossier émane de vous. Donc, c'est pour ça que l'Association des maires a établi un acte d'engagement dont vous pourrez vous inspirer pour vos propres consultations, pour vous sécuriser. Monsieur Tosi, vous voulez que je
continue?
Je.
Non, allez-y, attends, c'est bon. Hein. Donc, le comptable doit s'assurer que le marché est appuyé de l'ensemble des pièces justificatives prévues à la nomenclature. Donc, c'est soit un contrat, soit une mémoire de facture, soit la fiche de recensement des marchés. Alors, ça, c'est un peu quelque chose. Je ne sais pas si on vous la réclame ou si les comptables la réclament.
Alors, je vais vous la montrer. C'est...
Parce que vous avez raison.
Parce que peut-être que vous. Hop là. Alors, il s'agit d'un formulaire obligatoire, donc c'est le seul document d'ailleurs qui existe de manière obligatoire, et c'est vrai que tous les marchés au-delà de 90 000 euros hors taxes hein, doivent faire l'objet, dans le cadre de la transmission au comptable, d'un accompagnement par cette feuille. Donc, ainsi que leurs avenants. Ça veut dire que finalement, c'est un document qui ne sert qu'à des fins statistiques, donc pour vous, aucune utilité. Pour le comptable, pas d'utilité particulière, avec quelques réserves. Mais c'est vrai que c'est un document qui vous est demandé par les comptables, ça fait partie des listes, dans la liste des pièces à produire.
Voilà, donc c'est une ligne que vous allez trouver dans la fameuse liste des pièces justificatives, hein, quel que soit le type de marché, il doit y avoir une fiche de recensement. Alors c'est une pièce justificative un peu particulière parce qu'elle ne suit pas le reste des pièces. Elle ne part pas avec votre compte de gestion, avec votre mandat chez le juge des comptes. Elle est simplement destinée au réseau comptable de la Direction Générale des Finances Publiques, on va dire maintenant, donc c'est-à-dire à votre comptable qui la transmet à la direction départementale, qui saisisse dans un outil qui s'appelle Aramis, pour faire un recensement des marchés publics. De toute façon, alors elle est obligatoire pour tous les marchés, même inférieur à 90 000, sauf que depuis maintenant un certain temps, on ne fait plus de saisie en dessous de 90 000 de ces statistiques-là, donc elles ne servent plus à rien du tout en dessous de 90 000, et même au-delà de 90 000, bon, normalement, on est censé les faire, censé vous les réclamer si elles ne sont pas là. Jusqu'à présent, je crois qu'on ne les réclame pas beaucoup. Alors, on a reçu une note ce matin, là-dessus, sur ce sujet, parce qu'il y a une réforme.
Il faudra actualiser les choses auprès du ministère de l'Économie, parce que là, sur le document qui date quand même de janvier 2012, donc pas un document trop vieux, c'est marqué « Une fiche est remplie ». Pour chaque contrat dont le montant total, toute tranche comprise, dépasse 90 000 euros hors taxe. Pour chaque avenant, donc, si le montant du marché initial et ainsi de suite. Mais on parle que de 90 000 euros hors taxe.
Ah, donc ça, c'est la décision qui a été prise de ne les centraliser qu'au-delà de 90 000 euros. Mais la liste des pièces justificatives n'a pas été mise à jour. Et c'est toujours dans la liste des pièces justificatives. Donc je disais ce matin, on a reçu une note sur ce sujet-là. Donc ça tombe bien parce qu'on en discutait jeudi dernier avec les collègues de l'Unéville dans la même configuration qu'aujourd'hui. Et donc il y aurait à venir, c'est pas encore effectif, une récupération des données sur les marchés publics directement dans Helios. C'est-à-dire que vous n'auriez certainement plus rien à faire. Ce serait au comptable montant sa fiche de marché dans Helios de renseigner les éléments qui seraient remontés automatiquement. Voilà. Donc, à venir.
Donc, la fiche de recensement, elle se retrouve aussi sur le site internet de l'association avec l'instruction de 2007, hein, et ainsi que le diaporama.
Vous pouvez passer à la page 30, est-ce que tout le reste. Est-ce que vous liquidez fréquemment des pénalités de retard à l'égard de vos entreprises? Alors, je vous signale que, en ce qui nous concerne.
Oui, c'est difficile.
Alors. En ce qui nous concerne, on a une obligation qui est simple, qui est celle de vous demander de liquider des intérêts de retard pour tout dépassement par l'entreprise de ses délais d'exécution. D'où l'importance, parmi les pièces justificatives, notamment lors d'un premier mandat, de l'ordre de service qui fait commencer à faire courir le délai, de tous les ordres de services intermédiaires qui permettent d'interrompre ce délai, la constatation, on va parler tant qu'il court, de l'intempérie, etc., qui nous permettent, force est de reconnaître que nous, et c'est souvent ce qui peut poser problème dans les relations entre un comptable et son ordonnateur, c'est le fait que nous disons, il avait 6 mois, quand on regarde entre l'ordre de service et la date de réception des travaux, on en est à 9 mois. Alors attention aussi à la date de réception des travaux, qui est faite au mois d'août, mais qui devrait avoir un effet au mois de juin. Parce que si elle a un effet au mois d'août, prise au mois d'août avec effet au mois d'août, il y a 3 mois de dépassement dans les délais. Et en général, on vous demande de liquider des intérêts de retard.
Oui, puisque là pour le coup, si on ne le fait pas, et si les pièces que vous nous joignez au paiement de vos dépenses, et notamment le préavis de réception avec sa date d'effet, atteste qu'on a dépassé le délai d'exécution du marché, les pénalités sont de droit pour vous, pour la commune. Vous allez payer moins votre prestation. Donc si vous ne l'appliquez pas, que vous faites le mandat pour la totalité sans décompter de pénalités de retard à l'encontre de l'entreprise, et que le comptable il paye comme ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là le comptable il fait une dépense
trop importante par rapport à la réalité des pièces du marché. Donc si vous ne voulez pas payer de pénalité à vos entreprises, parce que bien que le délai est un petit peu, soit un peu prolongé, vous avez une bonne relation, la prestation est bonne, etc. J'allais dire, entre guillemets, débrouillez-vous pour que les dates d'exécution du marché collent avec le délai qui était prévu dans le marché.
Hein, autrement, si vous décidez d'abandonner, vous êtes obligé de prendre une délibération par laquelle vous abandonnez les intérêts de retard qui vous sont dus. C'est un abandon de créance. Tout abandon de créance, au même titre que l'admission en valeur ou autre, ça relève d'une délibération du conseil municipal. Donc soyez très vigilants sur le calcul de vos délais. Alors s'il y a 10 jours d'écart, je ne vous ferai pas d'ennui. Mais si on arrive à 2, 3 ou 4 mois, le juge des comptes, il sera sensible également. N'oubliez pas. Parce que là, il y a un préjudice au profit. Un préjudice pour la collectivité.
Je me permets simplement de faire un zoom sur un point. Dans le cadre d'un marché de travaux, le délai d'exécution est quelque chose que vous, vous avez analysé dans le cadre des critères de choix. L'entreprise s'est engagée. Si vous, vous décidez finalement de ne pas appliquer ces pénalités de retard, vous êtes d'accord avec moi, on ne respecte pas les règles que l'entreprise avait fixées au départ. L'entreprise, si vous l'avez retenue, c'est qu'elle était mieux-disante, elle était capable de réaliser les travaux dans un délai de 2 mois. Elle a mis 4 mois. Vous, vous l'avez prise parce que le concurrent direct avait un délai trop long. Si vous, vous n'appliquez pas les pénalités de retard, au final, finalement, vous ne respectez même pas votre choix, votre mise en concurrence. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même très très vigilant. Donc, et notamment le fait de renoncer à des pénalités de retard à une entreprise, il y a un risque effectivement davantage donc à une entreprise qui finalement serait injustifiée, hein, puisque vous avez exclu les autres pour le prendre celui-là. Donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant quand vous décidez de renoncer à des pénalités de retard. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir, sinon c'est des engagements à la volée, hein. L'entreprise elle va dire moi je suis capable, voilà 2 mois, bon 4 mois, peu importe, on ne dit rien, je continue de la sorte. Hein.
Le fond du problème dans cette affaire, c'est quand vous avez des lots, hein, qui se succèdent dans le temps. C'est là où les problèmes des délais sont les plus graves et présentent le plus d'incidence pour vous, collectivité locale. On est bien d'accord. Quand vous avez une seule entreprise, le retard, bon, il n'est que pour l'entreprise, il n'y a qu'un préjudice pour la collectivité, comme disait M. Anzo, il y a non-respect des termes du contrat. Et quand vous êtes dans une entreprise, un projet avec des lots, il est bien évident que si le plâtrier termine avant que l'électricien soit passé, vous êtes mal. Parce qu'il n'aura pas l'ouvrir.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Anzo. Quand je disais débrouillez-vous pour que ça rentre dans le délai, c'est débrouillez-vous pour retracer le délai exact, parce qu'il peut y avoir de bonnes raisons d'interruption de délai qui n'étaient pas prévues au départ. Et c'est ça qu'il faut formaliser pour que, globalement, le délai soit respecté.
Je crois que c'est ça qui est important. L'ensemble des pièces qui permettent de justifier du pourquoi du dépassement d'un délai. Et après, sur la fin, si manifestement, malgré tout, l'entreprise a dépassé, après, il vous appartient à vous de dire oui ou non, on fait remise gracieuse à l'entreprise parce qu'elle a malgré tout bien travaillé. Hein, il faut prendre en compte. Après, c'est de la compétence du conseil municipal de décider à terme et bien d'abandonner la liquidation de pénalité à l'encontre des entreprises. Il faut toujours avoir ça en... Vous passez à la page 44. Alors, sous-traitance, paiement direct. La sous-traitance, elle est soumise à des conditions. La première, c'est que vous en ayez connaissance. On est bien d'accord ? Toute entreprise qui décide de sous-traiter une partie des travaux que vous lui avez confiés doit vous soumettre son sous-traitant et faire en sorte que vous l'agréez. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il pourra bénéficier du paiement direct. C'est deux choses bien évidemment différentes. La condition de base, c'est l'agrément du sous-traitant. On est bien d'accord. C'est ça qui est essentiel et c'est ça qui est important. Dans un deuxième temps, eh bien, si compte tenu de l'importance des travaux, eh bien, le titulaire du marché principal peut décider d'autoriser d'agréer son sous-traitant à ce qu'il bénéficie d'un paiement direct des prestations qu'il exécutera.
Alors, qu'est-ce que l'agrément du sous-traitant ? Je vais reprendre un marché de travaux. Le titulaire, vous l'avez obligé à avoir des qualifications, des références. Quand le titulaire va vous présenter un sous-traitant, c'est un droit pour lui de sous-traiter. Il ne peut pas sous-traiter la totalité de son marché, il ne peut sous-traiter qu'une partie. Donc quand le titulaire va vous présenter un sous-traitant, il faut que le sous-traitant ait les mêmes qualités, les mêmes références que le titulaire. Hein ? Donc ça, c'est justement l'une des conditions à vérifier pour pouvoir l'agréer. Après, au niveau du paiement direct, je ne parle que du sous-traitant de premier rang, hein, donc c'est-à-dire un titulaire et un sous-traitant tout juste derrière. À partir de 600 euros TTC, c'est un droit pour lui d'obtenir le paiement direct. Donc ça veut dire paiement direct, donc vous avez aussi la possibilité d'avance. Hein, donc il y a tout un cadrage des pénalités éventuellement de retard puisque le délai de 30 jours n'a pas été respecté. Donc voyez-vous, c'est tout ça aussi qu'il faut prendre en considération.
Allez-y. C'est bon.
Alors dernier point, lorsque vous passez un marché. En général, je ne sais pas si les entreprises vous le demandent, mais certaines doivent vous le demander, elles veulent ce qu'on appelle un exemplaire unique.
Est-ce que
vous disiez qu'est-ce que c'est que cette histoire de vous qui me demande un exemplaire unique. Eh bien, c'est ce document qui lui permettra, entre guillemets, de vendre sa créance à une banque. C'est-à-dire qu'au moment où il va signer le marché avec vous, il va se retourner vers son banquier, il va y retourner avec cet exemplaire marché unique. Donc, comme son nom l'indique, il est unique. Il faut qu'on n'en délivre pas deux, on n'en délivre qu'un seul. Et c'est avec ce document-là qu'il va obtenir une avance de son banquier. C'est ce qu'on appelle le nantissement. Alors, il va céder et nantir sa créance.
Oui, donc cet exemplaire unique, il s'appelle unique parce qu'il a une formule particulière portée sur le corps même de l'exemplaire. Certifiant que c'est bien l'exemplaire unique destiné au... Je ne connais pas la formule par cœur.
C'est copie délivrée en exemplaire unique ayant pour objet de nantir ou céder une créance dans le cadre de la loi d'AI de 82.
Et donc, suite à ça, votre entrepreneur ou votre fournisseur va remettre cet exemplaire unique à son organisme bancaire qui va lui faire l'avance des fonds.
Moyennant finance, bien évidemment.
Moyennant finance. La banque va notifier à nous, comptable, la cession de créance, et nous, quand on recevra votre mandat, on ne paiera plus au compte bancaire de l'entrepreneur qui figurait à l'acte d'engagement, mais on paiera directement le banquier qui a fait l'avance à l'entreprise qui a cédé sa créance.
Donc elle délivrée,
bien évidemment, qu'une seule fois.
Ceci dit, si vous le délivrez en deux exemplaires, le premier qui arrivera, le second, on lui dira non qu'il a déjà été vendu. Donc à mon avis...
Comment éviter justement de remettre plusieurs exemplaires ? Vous avez justement retenu dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'une consultation. Vous notifiez à l'entreprise le fait qu'elle a été retenue en lui remettant une copie des différentes pièces. L'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières. Donc vous êtes d'accord avec moi, il y a une notification qui est faite, que vous faites certainement par recommandé pour donner une date certaine. Ce document-là, c'est finalement celui-là. C'est un que vous allez vous servir pour remettre l'exemplaire unique. Sur l'acte d'engagement, la pièce principale du marché, vous apposerez un cachet où vous écrirez justement une phrase que je mettrai sur le site de l'association. Ce qui se passe, c'est que il faut par contre donc un document photocopié, hein, le contrat, mais avec un cachet en original et une signature en original, avec la fameuse phrase « copie délivrée en unique exemplaire ». Ce document-là, à quoi il sert ? Il sert pour plusieurs choses. Un, le nantissement ou la cession de créance. Donc ça veut dire que, par exemple, l'entreprise que vous avez retenue va vendre à Oseo, hein, c'est un organisme bancaire, donc bien sûr, il se prend une petite partie au passage, mais pour permettre à l'entreprise d'avoir une somme d'argent immédiate. Hein. Donc après, la collectivité, effectivement, paiera au fur et à mesure des prestations. Mais par contre, le titulaire, il a une somme d'argent immédiate. Par contre, le deuxième avantage de l'exemplaire unique, c'est en matière de sous-traitance. On en a parlé tout à l'heure de la sous-traitance. Vous avez un titulaire, vous lui notifiez le marché pour un montant de 100. Il décide de sous-traiter 90. Avant d'agréer le sous-traitant, vous devez demander au titulaire son exemplaire unique. Vous ne pouvez pas sinon obtenir justement l'assurance qu'il n'a pas nanti ou cédé sa créance. Donc vous devez impérativement, avant d'agréer le sous-traitant et de permettre le paiement direct, demander l'exemplaire unique que vous avez notifié à l'entreprise. Si l'exemplaire unique vous est remis, pas de problème, vous pouvez permettre le paiement direct. Si vous est pas remis, ça veut dire que l'entreprise a été transmettre sa créance à un organisme comme OSEO. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant vis-à-vis de l'exemplaire unique et de la sous-traitance.
Alors juste sur un plan pratique, vous ne remettez pas systématiquement, je ne suis pas sûr que toutes les communes remettent systématiquement un exemplaire avec la mention exemplaire unique à tous les titulaires de marché. Je ne pense pas que vous le faites. Ce n'est que quand l'entreprise vient vous voir en disant « je voudrais céder mon marché, pouvez-vous me faire une mention d'exemplaire unique ?»
C'est prévu dans le code des marchés publics, hein, l'exemplaire unique. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est
non, mais je ne suis pas sûr que... En pratique. En pratique, je ne suis pas sûr que toutes les communes délivrent obligatoirement un marché en exemplaire unique à chacune de leurs entreprises titulaires. Alors, c'est mon sentiment.
Sachant que vous le notifiez, moi je pense que l'insertion de la mention dans le cadre des pièces que vous transmettez est la meilleure des solutions. Comme ça, vous êtes sûr déjà que l'entreprise a bien eu son exemplaire unique, parce que la personne publique n'a pas à être informée que la personne vend sa créance à une autre structure. Ça ne vous concerne pas. C'est son affaire ou c'est l'affaire entre les comptables et l'entreprise. Hein. C'est finalement complètement transparent pour vous, sauf il y a un cas où vous pouvez avoir effectivement un organisme bancaire dans le cadre qui vous adresse directement les paiements, mais il y a des mentions, et ça c'est prévu dans les annexes de l'instruction, là où vous pouvez, parce que je sais qu'il y a certaines communes qui ont eu ça, un tiers qu'on ne connaît pas, qui vous adresse une facture pour un marché de travaux, là où vous avez retenu par exemple l'entreprise X, et vous avez par exemple un organisme bancaire qui vous adresse le paiement. Ça, c'est déjà arrivé, et puis les élus ont réceptionné cette facture sans trop comprendre de quoi il s'agissait, et c'était finalement une entreprise qui avait cédé sa créance et qui finalement demandait, l'organisme bancaire demandait le paiement direct. Et ça, c'est vraiment, c'est à la marge, mais c'est cadré par l'instruction.
Alors, c'est le système un peu de la facturage dont vous parlez, mais la facturage, c'est toujours la facture qui est établie par l'entreprise elle-même. Hein ? La facturage, c'est le fait pour une entreprise de céder toutes ses factures à son banquier. Mais si vous voulez, au moment où il établit la facture, c'est bien la facture établie par l'entreprise Dupont, sur laquelle il y a une mention d'affacturage, et on vous indique très clairement là où vous devez payer. Mais c'est bien l'entreprise Dupont qui établit quand même la facture. Hein ? Et sachez une chose, si une entreprise cède ou si un banquier est bénéficiaire d'une cession, jamais il ne doit vous la notifier. Alors le plus simple, c'est de nous la transmettre. Mais le principe de base, maintenant les banquiers le savent, c'est que le seul qui peut recevoir la cession d'une créance, c'est le comptable public, puisqu'on est les seuls à payer. Donc si vous recevez, transmettez-nous le plus rapidement possible. Hein ? On y donnera en général suite, on y reconnaît. Malgré que la notification ne soit pas intervenue au bon endroit.
C'est un autre exemple, on a réaliser un ouvrage assez consistant dans le cadre d'une salle de sport. C'est une entreprise luxembourgeoise qui a donc eu le marché. Et ce marché a été transféré à sa filiale française. À ce moment-là, c'est la filiale française qui vient la destinatrice.
Point avenant. Il faut concrétiser le changement de structure juridique entre l'entreprise titulaire et désormais celle qui va exécuter le marché. Et là, il peut y avoir qu'un avenant. C'est quand on a une société, par exemple, qui succède à une autre dans le cadre d'un redressement judiciaire ou plutôt dans le cadre d'une fusion. Vous avez souvent des entreprises qui fusionnent. Donc au départ, c'était l'entreprise Dupont. Maintenant, c'est l'entreprise, on l'appelle comme on veut. Bien, il faut un acte d'engagement dans lequel on passe d'une structure à une autre. Et je pense que dans cette situation-là, la solution, c'est un acte d'engagement rectificatif où la société, entre guillemets, mère, indique que désormais, c'est la filiale française qui sera chargée d'exécuter et qui sera susceptible de réceptionner les paiements. Parce que pour nous, c'est ça l'élément important. La société mère a peut-être soumissionné avec un compte en banque. S'il y a changement de compte en banque, et en plus forte raison s'il y a changement de titulaire, il faut un avenant
au marché, qui est un avenant, là, cette fois-ci, purement administratif.
Ça me fait penser, cet échange, en parlant du compte sur lequel on va payer les fournisseurs. En matière de marché public, le compte sur lequel on doit payer les fournisseurs est prévu à l'acte d'engagement. Souvent, enfin, ça arrive de temps en temps, dans vos collectivités, votre tiers peut déjà être créé, parce que vous avez déjà eu affaire à lui pour un paiement sur facture ou autre chose, avec un certain compte bancaire. Et vous payez vos situations de marché, vous reprenez votre tiers qui existe déjà, et en fait, c'est pas le bon compte bancaire, c'est pas le compte qui est prévu à l'acte d'engagement. Donc faites bien attention, quand vous êtes en marché, vous avez signé quelque chose avec l'entreprise, il y a un compte de prévu, il faut payer sur celui-là.
Je vais te céder la parole.
Voilà, donc on a fini
à peu près
les dépenses.
À peu près.
Je vais encore...
Est-ce que vous avez des questions à poser avant? Est-ce que vous avez, ça vous est apparu clair?
Oui. Bon, alors si c'est clair, c'est déjà bien.
Et donc, ou bien que les choses sont, ben, c'est mon sentiment, elles sont parfois relativement simples, les choses. C'est souvent nous qui avons tendance à compliquer un peu les débats. Souvent, elles sont très simples.
C'est pas familier non plus.
C'est pas familier, je suis bien d'accord avec vous.
Et la règle prudentielle, compte tenu des sommes manipulées, on regarde en deux fois. Donc, c'est pas tous les jours.
Non, mais je veux dire, c'est pour rassurer un peu.
Oui,
mon propos est simplement pour rassurer, pour ne pas les inquiéter.
Le but est réussi.
C'est bien, attendu.
Ok, donc je vous ennuie encore 5 minutes avec les recettes, parce qu'on a parlé beaucoup de pièces justificatives de la dépense, mais vous émettez aussi des types de recettes.
On va vous projeter.
Alors, la règle en matière de recettes des collectivités locales, hein, c'est que normalement, il n'y a pas de recettes sans fondement juridique à la recette. Un fondement juridique, ça peut être quoi? Ça peut être un contrat, ça peut être une convention, ça peut être, dans le cas des logements que vous louez, le bail de location, et ça peut être toute décision que vous prenez pour instaurer vos redevances, pour fixer le tarif d'une prestation, etc. C'est ça le fondement juridique de vos recettes. Alors, la pièce justificative, comme en matière de dépenses, c'est une fois, au moment du premier titre que vous émettez qui fait suite à la décision que vous avez prise, par exemple, quand vous changez les tarifs avec le premier titre, le premier rôle que vous faites avec les nouveaux tarifs. Et ensuite, comme en matière de dépenses, les titres suivants doivent rappeler le fondement juridique de la recette et le numéro du titre de recette auquel cette pièce a été jointe au départ. Hein. Donc, même système que pour la dépense par rapport à cette fourniture de pièces justificatives. Alors, deux mots sur les avis des sommes impayées. Pour les avis des sommes impayées, c'est l'exemplaire que vous envoyez avec le titre de recette, c'est l'exemplaire qui part chez le redevable pour qu'il puisse faire son paiement auprès de la trésorerie. Alors, cet avis des sommes impayées doit comporter le décompte liquidatif et la base juridique de la facturation, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire faire référence à la pièce justificative, faire référence à votre délibre, et puis à comporter le décompte liquidatif, c'est-à-dire que si c'est un tarif, il faut tant de repas à la cantine à temps, ça fait tant, voilà, et ça c'est le décompte liquidatif de votre type d'offset. Il doit mentionner les voies de recours, donc ça en général vos prestataires informatiques, surtout si c'est l'association des maires, sont parfaitement au clair là-dessus, et donc
vous avez, la publicité est toute faite.
Vous avez sur la ligne des sommes impayées, les voies de recours qui sont offertes aux redevables pour contester son titre. Et puis, également, et ça, il y a encore des collectivités où ça ne figure pas, la qualité et l'identité de l'autorité administrative qui a émis le titre de recette, c'est-à-dire, en fait, votre nom ou votre prénom, maire de la commune de X, cette mention-là, nom, prénom, doit figurer sur le... En général, quand c'est à un endroit, ça l'est partout, hein, sur le bord de votre titre, sur la ville et son impayé, sur le titre de recette lui-même. Ça, c'est un motif de recours. Peut-être pas, parce qu'on ne va pas aller au tribunal simplement pour ce motif-là. Mais si quelqu'un conteste un de vos titres, il met ça entre les mains d'un avocat. L'avocat, si le nom, le prénom, le maire ne sont pas sur le titre, il n'ira même pas chercher ailleurs. Votre titre, il est mort d'entrée, parce qu'il y a une règle de forme qui aura été restée.
Le tribunal administratif aime beaucoup la forme. La jose.
Alors, la désignation du redevable sur vos titres, et donc sur vos titres et également sur les supports, les fouilles informatiques que vous nous envoyez, une identité complète, hein, nom, prénom. On voit de temps en temps des titres, juste le nom, pas de prénom, ça arrive. Déjà la poste, elle ne sait pas faire parvenir ça. Hein. S'il n'y a pas de prénom, le numéro de la rue, bon, la commune, bien sûr. On avait l'habitude dans certains petits villages de mettre Monsieur Ferrari, je ne connais pas mon prénom, 54, si vous avez un village de 50 habitants, je ne sais pas où vous êtes du tout, et c'était fou, quoi. Et le facteur du coin, il connaissait les gens dans le village. Ça allait jusque dans la sacoche du facteur et c'était distribué. Aujourd'hui, c'est fini. Même si c'est dans une petite commune où tout le monde se connaît, ça ne va même plus jusqu'à la sacoche du facteur. Il y a des machines qui lisent
électroniquement.
Et si l'adresse n'est pas complète, ça revient automatiquement. Oui. Et le problème, c'est que ça revient automatiquement, mais la poste, comme beaucoup d'autres, peut aussi pédaler un peu dans la semoule de temps en temps. Et ça revient, mais ça revient chez vous 2 mois après, hein, 3 mois après, des fois. Alors, entre-temps, on a fait des commandements.
Il n'y a pas de poste. Il y a des vues de trader, on est pénalité.
Non, mais pour les amis, on va vous le dire entre nous. La poste dit qu'elle a un contrat pour acheminer le courrier, mais pas pour le retourner. Voilà.
Alors, c'est bien la poste.
Alors, non, mais pour vous dire qu'on a. C'est plus comme avant. Donc, il faut vraiment qu'on soit carré sur l'identification et sur les adresses que vous portez sur vos avis de titre de recette. Hein. Bon, petit conseil, s'il y a plusieurs redevables, si les gens sont mariés, mettez monsieur ou madame, hein, les factures de cantine, de garderie, tout ça, mettez monsieur ou madame, parce que le jour où il y en a un qui se débite, et il y a des ardoises, il faut courir après un, il faut courir après l'autre, s'ils ne sont pas tous les deux portés au titre, si c'est monsieur machin, on ira chercher que monsieur machin. Et lui sera plus soldat, peut-être que sa femme y sera. Donc si vous voulez avoir plus de chances de recouvrement, mettez monsieur et madame.
Soyez sûr aussi du monsieur, quand c'est pas monsieur et madame du même nom.
Ah oui,
soyez sûr du monsieur et de la dame qui vivent ensemble.
Donc même ordre d'idée, hein, si les gens sont
pas. C'est les couples qui n'existent pas, n'est-ce pas?
Si on peut vous saisir directement la caisse. Et en plus, si vous avez le numéro d'allocataire, c'est encore mieux.
Dans les cantines, je pense que c'est un numéro à récolter dès le départ, quand les gens s'inscrivent.
Alors, les personnes morales, ça on l'a déjà dit, on le redit. Lorsque vous faites des dossettes à l'encontre d'une personne morale, méfiez-vous des enseignes, ne jamais faire de titre au nom de l'enseigne d'un commerçant. Barre de la Poste. Barre de la Poste, avant que ce soit la SARL, Barre de la Poste, mais c'est assez rare, en général c'est l'enseigne. C'est souvent un commerçant qui tient le Barre de la Poste, c'est monsieur machin, et c'est pas le Barre de la Poste.
Voir la société, surtout méfiez-vous des grandes enseignes.
Et voir la société. Là, dans le secteur, ils ont commencé à mettre en place des taxes sur les panneaux publicitaires, dans les zones commerciales. Là, je vous dis pas, quoi, les titres de plusieurs milliers d'euros au nom d'enseigne. Ça, moi,
de la chaussure, alors, je les cite parce qu'ils sont en contentieux avec une de mes communes. L'Alpe de la chaussure, c'est pas une société, hein, c'est une enseigne.
Voilà. Donc il faut être sûr de l'entité juridique.
Soyez très clair sur ce point. Mais ce que j'ai souvent dit est, dans ce domaine, venez nous voir, nous on a moyen de savoir. Alors si vous avez 250, ça nous fatigue un peu, allez chercher 250. Mais il y en a certaines, vous les avez. Mais si vous avez un doute, prenez toujours contact avec votre comptable, on a accès à peu près à tous les dossiers fiscaux.
Alors,
de tout le monde, donc en général, même sur les sociétés, on est capable, donc on va vérifier grâce à l'adresse de la société, son numéro SIREP, son adresse et son enseigne, son nom d'État. Donc pour suivre le bar de la Poste, il n'y a personne au bar de la Poste.
Et le problème, c'est que donc les gens payent les amis, les bar de la Poste, mais il y a des sociétés commerciales qui ont des difficultés, comme d'autres sociétés, et qui se retrouvent à un moment donné en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Et là, le jour où le jugement sort, il ne sort pas au bar de la Poste. Il sort à la SARL truc ou un monsieur, s'il est commerçant. Et là, nous, quand on va voir le BODAC avec les jugements qui apparaissent, Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, hein, c'est dans notre secteur, ben oui, et ça est machin, on regarde notre base, vous mais non, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de place. Et donc on passe à côté. Voilà, donc ça c'est important. Bon, sur les collectivités locales, on vous dit que plutôt d'éviter commune 2, mairie 2, monsieur le maire 2, prenez une fois pour toutes l'habitude de mettre, par exemple, l'Axou, commune de l'Axou.
Ouais.
C'est moins important que l'enseigne commerciale. Ça, c'est simplement pour s'y retrouver plus vite dans nos recherches d'éditeurs dans les news, puisque c'est classé. On fait des recherches par ordre alphabétique en général. Alors, un petit rappel sur les relations financières entre deux collectivités, qui doit toujours être fondée sur une convention préalable. J'en ai parlé tout à l'heure en matière de dépenses, donc il y a dépenses d'un côté, recettes de l'autre. Hein. Donc n'oubliez pas. Et puis, on vous dit pour finir que un certificat administratif n'a aucune valeur en matière de réduction ou d'annulation de titre. Alors oui, un certificat administratif n'a aucune valeur si vous faites un certificat administratif disant « Je sous-signais maire de la commune de X qui certifie que le titre numérotant doit être annulé, ça n'a aucune
valeur. Pas de valeur.
Par contre, ce qu'on a besoin en matière de titre de recette pour une annulation, c'est le motif de l'annulation. On ne peut pas annuler un titre de recette sans raison d'annulation. Après, vous pouvez broder sur la raison d'annulation. Hein. Mais donc, ce sera un certificat administratif qui dira, je sous-signais maire de la commune de X, certifie qu'il y a lieu d'annuler le titre de machin en raison de... tel ou tel événement, telle ou telle erreur matérielle, telle ou telle erreur de calcul. Voilà. C'est pas que le certificat administratif en tant que tel n'a pas de valeur, c'est qu'il faut qu'il soit motivé en matière d'annulation. Voilà, c'est juste ça qu'on voulait vous rappeler en matière de recettes. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est des petits éléments qui peuvent nous faciliter la vie à vous et à nous et peut-être vous garantir dans certains cas un meilleur recouvrement.
Moi, je vous propose, pour conclure, après cette explication, de corriger ensemble le questionnaire donc, qui vous avait été adressé donc avec le bulletin d'invitation. Maintenant, vous devez être des spécialistes en la matière. En matière de pièces justificatives, je pense que toutes les références, donc, vous les connaissez. Si ça ne vous dérange pas, on va commencer avec le paiement des dépenses. Donc, première des questions, le comptable exerce-t-il un contrôle d'opportunité sur la dépense d'une commune? Oui? Non? Uniquement pour les communes de moins de 3500 habitants. Alors, vous avez obtenu la réponse en début de séance. Quelqu'un veut se lancer sur la réponse? Donc, en l'espèce, le comptable, non, n'exerce jamais un contrôle d'opportunité. Hein, ça, c'est quelque chose, effectivement, donc, qui est prévu dans le décret de 62. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'aspect juridique, mais le comptable n'a pas à se prononcer sur le choix de la collectivité en matière de dépenses. Vous êtes libre. Il est là simplement pour contrôler, au vu des pièces que vous lui avez produites, pour qu'il puisse effectuer le paiement. Il n'a pas à se prononcer sur l'opportunité. La liste des pièces demandées par le comptable pour vérifier une dépense est prévue par c'est par l'instruction de 2007. Donc, alors c'est un décret effectivement. Oui, bon, donc c'est une instruction effectivement qui cadre les choses. Donc l'instruction, on a vu ensemble qu'elle était disponible sur le site internet de l'association. Il y a également un renvoi vers le site hein, du ministère des Finances, là où vous avez de manière très simple où retrouver les pièces à produire pour les marchés publics en matière de frais de personnel. Il y a des liens, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous retrouverez effectivement pour le cas de figure qui vous concerne quelles sont les pièces que vous devez joindre au comptable avec votre mandat. Donc il y a moyen effectivement simplement de retrouver les documents. En matière de délai de paiement, quel est le délai de paiement donc quel est le délai global de paiement? 30 jours effectivement. Le point de départ, quel est-il?
La date de la facture.
Alors effectivement, c'est la date de réception par la commune. À défaut, si vous passez par un maître d'œuvre, la date de réception chez le maître d'œuvre. Si rien n'est prévu, c'est la date qui est mentionnée sur la facture. Donc attention, voilà, plus de jours, tout à fait. Donc méfiez-vous, hein, il est préférable d'avoir un cachet d'entrée à chaque fois sur les factures que vous recevez. À défaut de règlement, dans le délai fixé, qui a droit au paiement d'intérêt moratoire? Uniquement le titulaire, le titulaire du marché, ses éventuels sous-traitants, personne sauf si le marché le prévoit. Tout à fait, c'est le titulaire et les sous-traitants. Hein. Donc, si le délai de paiement n'est pas respecté, toutes les personnes finalement qui sont en lien avec vous, hein, en matière de paiement, sont assujetties à ces règles, et vous, si vous ne respectez pas le délai, vous devez leur payer des intérêts moratoires. Quel est le taux justement de ces intérêts moratoires? Alors voilà, il est 8%. Alors c'est la grande formule, hein, c'est le taux d'intérêt principal de refinancement de la Banque Centrale, majoré de 7 points. C'est un taux qui évolue deux fois par an. Actuellement, depuis le 1er janvier 2012, il est de 1%. Donc majoré de 7 points, ça vous fait un taux de 8%. Ça commence déjà à chiffrer, hein. Sachant qu'il peut y avoir des intérêts moratoires sur les intérêts moratoires. Ça veut dire que si vous n'avez pas payé les intérêts moratoires pour une facture, hein, par exemple, vous auriez dû payer dans les 30 jours les intérêts moratoires, vous ne l'avez pas fait, il y a des intérêts moratoires complémentaires qui viennent se rajouter. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc méfiez-vous toujours au niveau des délais de paiement, mais on a vu que vous étiez bon sur le sujet, je ne vais pas développer. Dans le cadre d'un marché de travaux, une retenue de garantie de 10% est toujours possible uniquement si le marché le prévoit ou jamais possible. Tout à fait, le montant maximum d'une retenue de garantie est de 5%. Seul le titulaire peut se voir appliquer la retenue de garantie. La retenue de garantie sert à quoi? Pendant le délai de garantie. Donc par exemple, pour un marché de travaux, vous pouvez avoir un délai de garantie d'un an. Dans le cadre d'une construction, ça s'appelle le délai de parfait achèvement. Il peut y avoir un délai de 6 mois, hein, dans le cadre de travaux de terrassement. Mais pour les marchés de travaux, retenez ça. Hein, un délai d'un an dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Il peut y avoir aussi pour les marchés de fourniture et services des délais de garantie que vous aurez fixés. Donc seul le titulaire peut se voir appliquer ça et le montant maximum est de 5%. Un sous-traitant peut-il bénéficier d'un paiement direct? Tout à fait, oui. Donc à partir de 600 euros TTC, à la condition bien entendu hein, que vous ayez vérifié l'exemplaire unique, que vous l'ayez agréé, il peut effectivement bénéficier d'un paiement direct. Et enfin, dernière question, peut-on appliquer une retenue de garantie à un sous-traitant? Non. Donc la retenue de garantie n'est applicable que pour le titulaire du marché. Qui est responsable? Le titulaire. Le sous-traitant? Non. Ça veut dire que, en matière de sous-traitance, on a vu ensemble qu'on ne pouvait pas sous-traiter la totalité d'un marché. On peut sous-traiter qu'une partie d'un marché. Hein, ça, c'est d'ailleurs prévu par les textes. Quelle partie d'un marché? Au maximum 95%. Les 5% restants étant ceux de la retenue de garantie. Donc, le titulaire reste toujours responsable des soucis que vous pourriez rencontrer ultérieurement. C'est lui le responsable. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles questions. Vous avez un petit questionnaire. Un carnet va être établi sur le sujet hein, pour pouvoir justement vous apporter le maximum de précision. On se rend bien compte que le sujet est complexe et technique. On parle de marché public, on parle de finances publiques, on parle de comptabilité publique, d'exécution financière des marchés publics. Il y a beaucoup de sujets qui se croisent, qui s'entremêlent. Donc, on a parlé de délégation. C'est vrai qu'on passe du code des marchés publics au code général des collectivités territoriales. On comprend bien la difficulté hein, de la chose. C'est pour ça que si vous avez des questions bien spécifiques sur un sujet, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, qu'on puisse justement les traiter, vous apporter les réponses et en faire profiter aussi vos autres collègues élus. Ou aussi les secrétaires de mairie qui nous font l'aimabilité d'être présents ce soir.